Marceau le midi.
Ah, je peux vous garantir que quand une revient de vacances ici à la station, ça jase de voyage. OK? Cessez de nous achaler avec votre bonheur. À 14h, peut-être, Audrey reviendra avec des histoires sur son voyage où elle n'a possiblement pas fait l'amour sur la plage.
Mais c'est pas de tes affaires.
T'as-tu déjà essayé de faire l'amour sur la plage?
Pourquoi essayer?
Parce que dans les
comme
films...
Comme si ça n'avait pas fonctionné.
Parce que dans les films, c'est pas mal plus beau que dans la réalité.
Ça dépend pour qui.
Quand t'as la petite vague d'eau frette le soir qui t'arrive là où tu veux pas que ça arrive...
Ben, va dans l'eau.
C'est justement. C'était comme sur le bord de l'eau aussi. Ce qui fait en sorte que t'es, c'est comme un peu bizarre. Fait, ouh! Puis après ça, le sable. Le sable s'immisce dans des endroits que tu veux pas nécessairement.
C'est sûr qu'il faut la grande douche après, là.
La grande douche.
Mais moi, je t'avais déjà... Ça me dérange pas de raconter là parce que je l'ai déjà raconté. Tu sais, quand Denis avait fait avec l'équipe du retour 3 vérités, un mensonge.
Oui.
Une affaire de même, là. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire un bain de minuit en Espagne avec une de mes amies puis deux Australiens, OK?
Ça, c'est intéressant.
Puis, on s'était fait voler nos vêtements sur la plage.
Puis qu'est-ce qui est arrivé?
Ben, walk of shame dans la ville, mon gars.
Vous avez marché.
C'est pas une farce,
tout
là.
Nu en Espagne.
En se tenant ce qu'on est capable de se tenir.
Combien de mètres, à peu près?
C'était long, là. Je veux dire, même trois pas, ça aurait été épouvantablement long dans cette histoire-là. Là.
Ah, ouais.
Ouais, fait que je le dis, là.
Quatre
tout
nus.
Quatre tout nus. On aurait pu être arrêté pour grossière indécence.
Je pensais pas que t'étais de même. Je pensais pas que t'avais ce côté-là, Pascal. C'est une autre facette de ta vie que tu nous montres. Très content de te voir aujourd'hui.
Oui, tout en forme, moi aussi.
En fait, hier, je ne pensais qu'à une seule personne, c'est-à-dire toi, pendant le Super Bowl, parce que je me suis dit, c'est clair qu'elle va m'écœurer avec mes Chiefs de Kansas City qui ont oublié de se présenter hier.
Qu'est-ce que c'est ça? C'est quasiment triste.
Je ne sais pas vous autres, 418-971-1021, mais moi, c'est de loin le pire Super Bowl, tant pour le sport que pour le côté culturel. Là. Chez nous, j'étais avec les ados et les pré-ados pour écouter le Super Bowl. Et Kendrick Lamar s'est transformé en Kendrick Lamarde. Bon Dieu que c'était mauvais. Ça va passer dans les annales de l'histoire du Super Bowl comme étant un des pires Super Bowl, tant pour ce qui est du sport que de la culture. Il y a deux, trois tunes qu'on connaissait de Kendrick Lamar, mais je m'attendais à des artistes invités. Tu sais, Denis avait dit, hey, imaginez-vous si on pouvait faire venir elle qui trippe sur Kelsey, là.
Taylor Swift. Moi, j'étais sûr que non, vu le conflit d'intérêts,
puis
elle s'est fait
voler.
Plus,
ouais, puis il va se faire voler
le show.
Il va se faire voler le show.
Mais tu sais, Post Malone, des trucs comme ça. En vrai, c'était juste un...
un message qu'il voulait envoyer.
Envers Arki, Drake.
Ennemi.
Il a amené toutes les ex de Drake sur la scène, puis elles ont chanté et dansé sur la toune où il diss, pour dire en bon rapper, là, Drake. C'est vraiment une toune qui est dédiée à Drake, celle qui chantait quand on a vu ses ex.
Est-ce qu'il traitait de pédo dans une de ses tounes, mais il a changé les paroles hier?
Ouais. Est-ce qu'il traite vraiment de pédo? Non,
puis,
c'est at large, mais.
Serena Williams était là et son ex.
SZA.
Était là aussi. C'était comme un règlement de compte. Ça avait comme pas rapport. Puis il y a énormément de gens qui ont été déçus, dont les ados à la maison qui se disaient, ça va être le meilleur show planétaire qu'on a jamais vu.
Eux l'attendaient.
Ouais, ils ont été très, très déçus.
Mais visuellement, par contre, c'était beau. Je dois dire qu'il y a beaucoup de scènes que j'ai trouvées belles comparativement à des mi-temps qu'on a vus dans les dernières années ou qui auraient pu être un petit peu plus travaillées. Mais à part ça, l'ambiance aussi. À la télé, il y a de quoi les bandeaux avaient changé. On dirait pas que c'était un Super Bowl. On dirait que c'était une game du dimanche. Puis en plus, ben, comme tu dis, les Chiefs se sont pas présentés. Puis même si je comptais pour les Eagles, je décrochais des fois. Puis avant que je décroche du foot, là, ça m'en prend. Je me suis posé la question avec mes chums hier en me disant, honnêtement, t'es un fan des Eagles, t'as payé genre 3 en montant, là, 3 000 en montant pour un billet puis être là-bas. T'es-tu vraiment heureux de la game? Parce que t'en as pas au final. Un blanchissage pendant un bon bout, là.
Ouais.
T'as pas de game.
Je regardais les équipes cette année. Moi, je trippais un peu sur l'histoire des Commanders. Mm-hmm. J'aurais aimé que les Commanders se rendent jusqu'à la fin. J'aime beaucoup les underdogs qui, tu sais, au début, tu y crois pas, mais finalement, ils commencent à croire en eux puis sont capables d'atteindre des sommets. Puis Kansas City, ben, je veux dire, c'est un bon club malgré ce qu'on peu en penser, puis je pensais qu'on allait marquer l'histoire en enfilant 3 en ligne. Finalement, c'est pas arrivé
il y
hier.
Il n'y aura pas à bague.
Tu sais, il y a quelqu'un qui m'écrit, Alex, qui dit « Ouais, moi, j'avais prédit une rince des Eagles. C'était une évidence. » Ouais, Alex, si t'es
une
pas
évidence.
Multimillionnaire avec tes paris, là, c'est peut-être juste un hasard hier.
Ouais, ouais. Là, l'évidence, moi, je suis pas très d'accord avec Alex, mais si, ça doit être un fan des Eagles.
Ouais, mais les images, moi, j'ai aimé tout ce qui entourait le Super Bowl. T'as-tu déjà été en Louisiane? T'as-tu as-tu déjà été en Nouvelle-Orléans?
C'était beau au début sur Bourbon Street.
C'est juste hallucinant. Tu sais, aussi, considérant l'histoire qu'il y a de ça quelques temps, il est arrivé une tragédie sur Bourbon Street. Oui. Lady Gaga qui a fait qui jouait au piano.
Quelle femme.
C'était de toute beauté.
Bradley Cooper qui était avec son enfant aussi au début pour encourager les Eagles. C'est pas le même moment que tu es en train d'écrire, mais eux, un va pas sans l'autre.
Il y avait quelque chose de très cool hier soir. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer sur les réseaux sociaux. Le chanteur de Noir Silence, puis le chanteur des Vilains Pingouins. T'as-tu vu ça passer, Pascal?
Non. Écoute. Je sais pas où tu m'amènes. Étais-tu au Super Bowl avec Kendrick?
Ou... Je veux pas présumer de rien, mais...
On a jasé, mon chat.
Je les défendrai pas, là. Okay. Mais... hier, ça a commencé avec Jean-François Dubé, qui est le chanteur de Noir Silence, le chanteur cool de Noir Silence, puis Rudy Kaya, OK? Jean-François Dubé a clairement dit sur les réseaux sociaux comment est la sécurité au Super Bowl. Mettons que trois petits points, on peut rêver.
Ouch! Et c'est pour Donald Trump.
Rudy Kaya, qui écrit Bullseye en dessous.
Oh, là, c'est trop.
Je veux dire... Je peux pas. Des fois, on dit, les gars étaient peut-être un peu sous hier. Ouais. C'est des artistes.
Ils ont toujours bien choisi de le dire, de l'écrire, de le penser, de l'envoyer.
Mais ça, c'est l'invitation à un attentat. Souhaiter un attentat sur des individus. Puis, quand même que ce soit ciblé sur Donald Trump, c'est parce qu'il y a d'autres gens innocents autour. Là.
C'est la première chose à laquelle on pense. Une balle perdue ou quelque chose. Mais non. Puis l'atrocité, le traumatisme en direct à la télé devant tout le monde. Voyons, ça va-tu?
Ouais.
On a jasé mon chum et moi d'aller te mettre au cachot, mon gars. Là. Non, pas vrai.
Tu te dis, voyons donc.
Veux-tu que j'y réplique?
Là, son poste. Quand j'ai tombé sur ça, ça faisait déjà une heure qu'il avait mis ça sur son Facebook. Et il n'y avait pas grand réaction. Là. Honnêtement, il y avait peut-être 80 réactions, à peu près.
Mais tout le monde devait être dans un sapré malaise. Là.
Et après ça, on a été une coupe à reposter ça. Et il s'est rendu, il y avait, je pense, 3000 messages. Qui disait, Jean-François, c'est épouvantable ce que tu viens de faire là. C'est épouvantable de dire ça.
50.
Puis Rudy Kaya aussi s'est fait varloper au travers de ça.
Y a-t-il des gens qui likaient, qui mettaient des bonhommes qui riaient, qui adoraient?
Il y en a qui riaient, il y en a qui likaient, bien entendu. Tu sais quoi? Quand il y a eu... Puis je comprends que vous pouvez détester des gens, là. OK? Pour moi, à mes yeux, quand tu détestes quelqu'un, c'est comme boire du poison dans l'espoir que l'autre personne que tu détestes meure.
Ouais.
Fait que c'est toi-même qui s'empoisonne. Mais quand Trump s'est fait siffler les oreilles, là, c'était le premier attentat sur sa vie de mémoire, ben il y a des gens qui avaient écrit sur les réseaux sociaux « Dommage qu'on l'ait raté
».
Tu sais, il y a ses qualités, Donald Trump. Il y a énormément de défauts, bien entendu. Mais de souhaiter la mort de quelqu'un parce que tu n'es pas d'accord avec ce qu'il fait, j'ai trouvé ça très particulier. Mais hier, c'est encore arrivé sur les réseaux sociaux. Mais bref.
Beaucoup de commentaires de gens qui écoutent en ce moment là, ton discours puis qui disent « Mais moi, j'ai eu peur de ça. » Il y en a qui appréhendaient peut-être un geste négatif. Là, en passant, c'est pas des gens qui nous écrivent qui disent « Ah, il aurait fallu un genre de « i ». Moi, j'étais quand même sous mes gardes.
Ouais. Trump, c'est le président des États-Unis actuellement. Qu'il y a la garde du président des États-Unis. Quand il était candidat, ben, il y avait effectivement un peu de Secret Service, mais il y avait aussi les autorités locales qui s'occupaient de sa sécurité.
Mm-hmm.
Puis c'est ça qui est arrivé quand il y avait le fameux sniper là, qui était sur le dessus d'un entrepôt. De mémoire, c'était un shérif de la place qui l'avait aperçu pour la première fois puis qui avait essayé de... qui avait averti les autres comme quoi il était là. Finalement, il avait eu le temps de tirer quand même. Mais c'est ça. Je veux dire, tu peux pas souhaiter la mort de quelqu'un. Je trouve ça,
c'est trop, là.
Mais les auditeurs...
Ils voulaient attirer l'attention puis ramener leur chanson. Ça n'a pas fonctionné non plus, là. Tu sais, on a vu, là, des gens qui ont dérapé un peu, là, dans le showbiz québécois, là, dans les dernières années.
Je vais être plate, puis probablement que tu vas me reprendre, mais j'ai l'impression que...
Quand t'es plate, ça arrive.
les gens de la gauche extrême puis les gens de la droite extrême peuvent dénoncer des situations d'un bord comme de l'autre, mais quand ça vient de leur bord, c'est-à-dire c'est des ennemis de Donald Trump, là, on s'entend que ces deux gars-là, c'est des gars qui sont à gauche, extrême gauche, et des gens de Québec solidaire aussi, parce qu'ils publient régulièrement des trucs de Québec solidaire. Eux autres, les ennemis, là, ils peuvent souhaiter la mort, exemple, de Donald Trump ou d'une autre personne qui est du même type que Donald Trump, puis ça va être accepté dans leur gang.
Ouais, tu trouves qu'il y a moins de représailles.
Au même titre que l'autre bord de l'extrême droite, c'est la même maudite affaire, tu sais, mais quand vous êtes rendu là, les amis, dans votre tête, c'est peut-être que vous êtes rendu trop loin, là. Ouais, d'un bord comme de l'autre.
Je vais rien répliquer, là. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire.
Bon,
ça ne devrait pas être laissé. Là, on le met en lumière, là, pour des raisons qui sont du genre déplorer ce qui s'est fait sur les réseaux sociaux, là. Mais ça ne devrait pas. Ça devrait pas exister. Puis même, je pense que si tu voulais donner un petit peu plus de pouvoir à la façon dont tu penses, puis à la façon dont tu vois les choses avec ta gang, ce serait de déplorer ces commentaires-là. Hey, là, tu vas trop loin.
Ouais.
Je comprends qu'on l'aime pas, mais là, souhaiter la mort de quelqu'un en direct, c'est comme ça, je pense que ton courant prendrait de la force. Puis il y aurait une meilleure opinion auprès du public qui t'écoute puis qui veut voir s'il embarque dans ta gang ou pas.
Je sais pas s'il y a bien des gens qui ont boycotté, mais si vous avez boycotté, sachez que vous n'avez pas raté grand-chose. Aussi, en fin de semaine, deux défaites du Canadien ce week-end au Centre Bell, 4-0 face aux Devils New Jersey, 5-3 face aux Lightning de Tampa Bay. Le Canadien, ça fonctionne pas. On a une grosse pause, donc on va profiter de ça. C'est jusqu'au 22 février, la pause pour le Canadien, parce qu'il y a la confrontation des quatre nations. Le premier match, d'ailleurs, ça va être Canada-Suède et ça va être mercredi. Puis il y a des gens qui me disent, moi, j'ai boycotté, ça a fini combien? Ben, c'est 40-22 pour les Eagles de Philadelphie. Et le corps arrière, Jalen Hurts, qui a été nommé MVP, c'était tout à fait mérité. Puis, ça donne juste une leçon aussi. Travis Kelce, t'as-tu vu son entrée au stade?
Un petit peu trop chauvin?
Ça ressemblait beaucoup à du « Je m'aime-moi ». Regardez-moi, je suis une star. Je sors avec, comment s'appelle la fille qui a des bottes de cowboy?
Tu sais, c'est Taylor Swift.
Taylor Swift. Je mets mon kit des années 70. Je mets des grosses lunettes trop grosses pour ma tête. Je suis une vedette.
Mais c'est un peu ça, le
foot. Rendu sur le terrain, ils se sont fait piler d'en face. Quand tu rentres pas avec une humilité, là, il y a de fortes chances que ça se peut que tu te fasses ramasser.
Mais t'es au courant, j'ose croire, quand tu te déguises là, avec un style...
En tant qu'un gars très humble...
OK, vas-y, voir.
Je prône pour ma part.
OK. Mais c'est un peu ça, le football. Même Mahomes est arrivé, puis c'est parce que là, j'ai peut-être un biais, là. Fait que j'aime pas ça l'en parler, là. Mais même lui, quand il est arrivé sur le terrain, tu m'énerves. Quand il est arrivé sur le terrain, il était un petit peu trop cocky. Sauf que c'est ça, le foot. Si t'arrives pas cocky, puis en même temps, je parle, puis j'ai goût de me répondre, Yannick, une autre fois. Tom Brady était quand même beaucoup plus focus. Il faisait pas un grand show de ça, même si c'est gold, puis. Puis lui, en passant commentateur hier au Super Bowl, là, j'espère qu'il va bien.
Je ne sais pas, mais il était dans toutes les publicités.
Mais il devait être très... Oui, lui, premièrement, il est rendu plus riche qu'il était. Oh. Deuxièmement, il devait être super content que Mahomes n'aille pas chercher le Super Bowl. C'est ses stats. Mais il a l'air... je ne sais pas s'il a l'air en santé. En tout cas, il y a de quoi. Là, j'espère qu'il va bien mentalement.
Mais il n'est plus en game shape, là.
Non, ça, c'est sûr. Mais il est peut-être en shape, genre yoga, là.
Il ressemblait pas à Justin Bieber, là. 2025, mais moi, tu sais, il doit plus s'entraîner comme il s'entraînait avant.
Moi, je pense qu'il fait yoga. Ça a l'air d'un entraînement de yoga, là, plus qu'en hypertrophie, là, pour recentrer ses chakras puis retrouver une raison de vie.
Il fait du yoga, mais il y a de la moins en santé. Fait que j'ai toujours dit, le yoga, c'est de la marde. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité?
Plein de petites choses, entre autres, ta favorite est revenue dans l'actualité, Madame Geneviève Guilbeault, Yannick, parce qu'on là, on recherche un autre Top Gun. Si tu as réécouté le film là, de Tom Cruise en fin de semaine, sache qu'on essaie d'appliquer ce genre de personnage-là pour premier patron de Mobilité Infra-Québec. Donc, c'est un appel qui a été lancé aujourd'hui. On veut des candidatures au poste de présidente directrice générale ou président-directeur général de cette nouvelle agence-là. Bon, c'est l'agence qui est chargée de réaliser des projets qu'on dit complexes de transport. Puis, c'est un peu le premier Top Gun des transports qui va avoir 309 000 $. Si jamais tu cherches un autre job, sache que ça peut être intéressant côté financement personnel. Puis, une prime de 15 % aussi qui va s'ajouter là, pour les deux premières années. C'est un peu la même chose pour la Top Gun de la santé. Là,
ce qui est intéressant au gouvernement, c'est que même si ça ne fonctionne pas, ce que tu mets en place, tu as quand même tes primes de 15 %.
Oui, au total, ça pourrait être 355 000 $.
C'est complètement
annuellement.
Tu sais, il y a la Top Gun de la santé. Dans le fond, ça ne sera plus les politiciens qui vont être responsables de leur ministère puis des erreurs qu'ils font.
Sur l'imputabilité, tu vois.
Exact. C'est plus eux autres. T'sais, Christian Dubé, quand ça ne fonctionnera pas à son goût, va pouvoir remplacer la Top Gun, mais les gens, ils ne pourront pas remplacer Christian Dubé. Il va pouvoir rester ministre, même si le ministère de la Santé, ça ne va pas nécessairement bien, parce que ce ne sera plus de sa faute.
C'est un peu ça, mais je comprends l'image. C'est une bonne réflexion. Tu es en train de dire que l'image au gouvernement est en train de changer avec des postes comme ça qu'on met en lumière. Éric Kerr, par exemple, tout le monde disait c'est pas de sa faute, SAQ Click, c'est pas de sa faute. C'est le directeur de l'équipe en dessous de lui, en fait, qui est à qui est à mettre à porte parce que Éric Kerr n'a rien à voir là-dedans, puis c'est plus un peu la potiche de service. Pour certains, c'était ça. Puis d'un autre côté, à chaque fois qu'on disait félicitations pour le mouvement technologique, ben là, c'était Éric Kerr qui était encensé. C'est un peu difficile à comprendre.
Ouais. Fait que là, on va avoir
c'est ça qu'on est en train de faire?
Un tsar de la santé, si on l'a trouvé. Puis là, on va trouver un tsar du transport.
Il y a des tsars partout, il faut croire. Oui. Là, mais c'est ça qu'on cherche. Puis la personne avait été hautement rémunérée. Moi, je me demande quel genre de candidature on veut parce que tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut qu'une personne possède une expérience significative en gestion de projets complexes puis doit faire preuve de vision stratégique et de leadership.
Ouais.
Sérieux, je trouve ça large.
Quel signal t'envoies aux payeurs de taxes?
Postuler.
Non, mais quel signal t'envoies aux payeurs de taxes qui disent « Ben moi, là, c'est parce que on paye beaucoup, là, parce qu'au Québec, on est les plus imposants en Amérique du Nord. On paye beaucoup, puis on n'a pas le service pour lequel on paye. » Puis au-delà de ça, les politiciens, visiblement, sont pas capables de faire le travail avec leur équipe au gouvernement qui sont des fonctionnaires. Donc, on va chercher une ressource extérieure.
Mais je me demande si le poste n'existait pas avant, Yannick.
En fait, il n'existait pas. C'est juste qu'on ne peut pas crisser les mauvais qui sont au gouvernement dehors. Parce que c'est des fonctionnaires.
Je comprends, mais le Top Gun, là, ça n'existait pas en santé puis mobilité infra, je comprends. Mais il y avait quand même quelqu'un qui gérait une équipe.
C'est les sous-ministres.
Ben oui. Puis sous le sous-ministre, il y avait aussi un directeur qui faisait la gestion de cette équipe-là. J'ai juste l'impression qu'on a pris ce qui était déjà en place, on l'a tassé un peu à côté, puis on l'a mis en lumière.
On l'a dupliqué. Il n'y a pas de postes qui ont été abolis de sous-ministres. On a fait une structure à côté de ce qui était déjà mis en place.
Mais on l'avait quand même dans la structure initiale. C'est juste qu'on a tassé, comme tu dis, pour mettre en lumière sur le poste.
Pour pouvoir peut-être le coalisser dehors,
si
ça marche pas.
De façon imputable, puis avoir l'air d'un bon gouvernement.
Ouais. Mais est-ce que j'ai sacré deux fois? Oui,
deux fois. Je m'en suis même pas rendu compte, tu vois.
Je vais mettre 25 cents ici. Mais c'est ça. Fait que t'envoies un signal à la population qu'au gouvernement, il y a des gens de talent qu'on exploite peut-être pas assez, là, mais la plupart des gens sont pas capables de faire ce type de job-là, même s'ils sont à l'intérieur du ministère des Transports, même s'ils sont à l'intérieur du ministère de la Santé. Puis s'ils sont pas capables de faire ces jobs-là, bien, on peut pas les sacrer dehors parce qu'ils sont syndiqués. Fait qu'on embauche des ressources extérieures constamment.
Il y a quelqu'un qui propose Régis Labombe comme Top Gun des réseaux de transport structurants.
Ah, oh, peut-être.
Mobilité infra. Hey, imagine-tu.
On enchaîne.
Les ventes de Tesla ont jeté partout à travers le monde.
Hey, ça, c'est mauvais, ça.
Elon Musk, le millionnaire qui est à la tête de l'entreprise propriétaire aussi, qui est proche de Donald Trump, ben, fait les manchettes pour ses efforts. Hein. On veut diminuer la moitié des dépenses dans la fonction publique américaine, puis ça fait pas l'affaire de tout le monde. Les actions de Tesla, 11 % de moins la semaine dernière. C'est plombé par des rapports de vente là, atroces dans le monde entier. Il y a un genre de courant commercial qui s'entend en termes de politique. Là. Quand tu vois que, mettons, ça, c'est interrelié à la politique. Là. C'est pas des gens qui, du jour au lendemain, n'aiment plus Tesla. C'est vraiment un message politique qui est en arrière de ça. La cité médicale, on en a parlé tellement à Québec, là, puis on pensait que c'était la révolution, mais là, l'avenir est incertain pour les deux cliniques de la cité médicale à Québec. Elles ont été rachetées il y a plus d'un an. C'est les destinations santé qui doivent, une fois de plus, être vendues dans les plus brefs délais, c'est ce qu'on dit. Donc, c'est 100 cliniques à l'échelle du pays qui a fait l'acquisition des succursales à la cité médicale, celle de Sainte-Foy puis de Charlebourg. Celle de Montréal avait été exclue de la transaction, mais ça ne fonctionne pas. Clairement, on a besoin d'aide financière aussi. C'est sur la liste des créanciers dont le Soleil a eu une copie, là. Dette de plus de 124,8 millions de dollars exposés. Qu'est-ce qui explique tout ça? C'est assurément à aller gratter parce qu'on réclamait ce genre de clinique-là. On pensait que les gens allaient se présenter au rendez-vous, chose qui a été faite. Les gens se présentaient au rendez-vous, mais est-ce que les services qui ont été donnés, est-ce que le prix qui était dépensé quotidiennement, mensuellement pour faire rouler la clinique était peut-être un petit peu trop surélevé par rapport à ce qu'on était capable de remplir? Tellement de questions à se poser, mais ça ne fonctionne pas. Là. Financièrement, ce n'est pas un modèle sur lequel on peut se poser à travers les prochains mois. C'est un petit peu triste de voir ça quand on essaie justement d'avoir un peu plus de services en santé.
Ouais, le délire d'Elon Musk avec Trump, ça a commencé quand? Ça a commencé pas mal au mois de décembre où il était pas mal plus présent.
Oui, déjà dans son dernier mandat là, de Donald Trump, il était un peu présent. Mais oui, je dirais décembre.
Mes actions de Tesla à moi, je les ai payées 309 $. J'en ai trois. J'en ai pas bien, là. J'en ai trois. Je les avais payées 309 $. Ça fait quand même un bout. Le 13 décembre 2024, l'action était à 436 $.
Ça avait monté.
Et aujourd'hui, il est à 361 $.
OK. T'as pas tout perdu encore.
J'ai pas tout perdu, mais
j'ai un électrique.
Mais moi, j'y pense, là, parce que Tesla, c'est un super de beau produit. Puis Elon Musk.
T'en aurais-tu une?
Une Tesla? Mm. Oui. Ah oui. Mais le gros modèle, là. Mais j'ai pas l'argent pour. Mais Tesla, c'est. Oui, oui, j'aimerais ça.
Mais toi, t'es humble.
Tesla,
t'es pas, Travis Kelce.
Exact. les Tesla, c'est des super de bonnes voitures. Mais là, à t'as peu, là. C'est parce que moi, j'aimais tellement les produits Tesla que j'ai acheté des actions. Mais le gars en haut est en train de faire le clown, ce qui fait en sorte que les actions descendent.
Oui.
Fait que là, moi, j'aurais pas le choix de les vendre, là, parce que je veux pas perdre de l'argent.
Tu les vendrais?
Ben là, écoute, il est en descente. Là, depuis 10 jours, il est constamment en descente. Puis visiblement, il est pas en train de se guérir ses réseaux sociaux.
Mais
là,
t'en as trois.
Lit, j'en ai trois.
Tu comprends que c'est pas mon argent.
C'est pas ton argent!
Mais t'en as trois. Puis moi, je voudrais jouer avec ça. Tant qu'il y en a à voir, j'en achèterais pas.
Tu voudrais jouer avec mon argent?
Oui.
J'en ai rencontré une couple de même, ça n'a pas fait long feu en couple.
On n'est pas en couple!
11h56!
C'est ça, hein? Peut-être la clé, c'est juste ton ami qui joue avec ton argent?
Ah, ouais, c'est ça. On fait une pause, on revient. C'est le chum Jeff Fortin qui est en remplacement de Denis Gravel dans les prochaines secondes.
Marceau le midi, en 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
Midi de 2 minutes. Denis Gravel qui est absent aujourd'hui. C'est le chum Jeff Fortin qui est là en remplacement de Denis qui, visiblement, a eu un plus gros Super Bowl que tout le monde.
Ben oui,
quand
malade.
Quand tu vois de la microbrasserie à outrance, ça se peut que ça brasse un peu dans le ventre.
C'est ça qui arrive. Il n'y a pas pris soin de lui, le Denis.
Ouais, ça va, Jeff Fortin?
Ça va super bien.
Content de te voir. C'est moins 12 degrés sur Québec avec le refroidissement éolien. C'est une température ressentie de moins 17. Une alternance de soleil et nuages pour aujourd'hui avec peut-être un peu de neige ce soir. On parle de 2 cm par endroit, minimum de moins 17. Et pour ce qui est de demain mardi, à la verse de neige parfois forte en matinée, accumulation entre 2 et 4 cm avec des petites rafales à 40 km/h, maximum de moins 6 degrés. Et si je vais plus loin, mercredi, c'est le retour du soleil. Donc plein soleil pour mercredi avec un maximum de moins 12 degrés. Jeff, Pascal, j'ai plein d'histoires à vous raconter. En commençant par une histoire d'horreur.
Ah, va donc!
Puis, pour avoir régulièrement travaillé avec des filles dans ma vie, là, moi, j'aime bien ça, travailler avec des filles, parce que tu reçois tout le temps plein de potins que normalement, si tu jasais juste avec des gars, t'aurais pas.
Ça, c'est vrai. La table des animateurs ici est utile pour ça.
Ah ouais, puis des
parce
fois,
que là, t'es assis là, en silence, tu travailles, puis pouf, 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 pouf.
Des fois, c'est des potins sort. Positifs.
Quoi? Il vient de nous dire que c'est un grand espion. Là.
Ben non, pas un grand espion, je fais juste mon travail.
On fait de l'écoute sélective.
OK. Mais ça, je le savais de ta part, par exemple.
Puis parfois, ça peut être positif comme ça peut être négatif, les histoires qu'on entend. Puis ça me tue à chaque fois, tu sais, quand on considère que l'homme est un prédateur pour la femme. Tu sais, j'avais écouté des podcasts là, ouais. de pro-féministes pour savoir, ouais, tu sais, les gens un peu débiles, ils pensent quoi des hommes, tu sais.
Mm-hmm.
Puis c'est des gens qui sont extrémistes là, dans la haine des gars. Puis je me dis, mais pourquoi ils pensent ça? Puis des fois, il y a des choses dans l'actualité qui me laissent, qui me démontrent à quel point ça peut être un danger être une femme dans notre société, là. À quel point des hommes sont capables de faire des choses qui n'ont aucun bon sens. Il y a toujours eu des malades mentales dans la vie.
Oui.
Mais l'histoire que tu vas raconter, je ne vois pas du tout cet individu-là le faire à un homme.
Ouais. Peut-être. Ben, c'est peut-être.
Je vois pas ça du tout.
En prison, mettons.
Mais tu comprends-tu ce que je veux dire? Très peu de chance.
Ouais.
Moins
mais
de chance.
C'est le genre d'histoire que tu mets ça dans un film, puis les gens vont dire « Hey, c'est vraiment un bon film. » Il y a un film qui a été fait il y a de ça quelques années où la femme est dans son condo.
Mm-hmm.
Puis il y a un concierge qui est là, qui est super sympathique, qui est un gars qui fait des menus travaux. Tu sais, un beau bonhomme. Là.
Bon, oui.
Et elle a une relation qui est... je te dirais d'amitié avec ce fameux concierge-là. Puis le soir, quand elle se couche, ben elle est dans son lit, elle est seule dans son appartement. Puis le matin, quand elle se lève, elle se sent un peu bizarre, mais c'est un lundi, mettons. Un lundi de lendemain du Super Bowl.
Oh, oui.
Et elle avait décidé de mettre des caméras dans sa chambre pour finalement découvrir que le concierge allait l'agresser sexuellement pendant la nuit ou l'observait pendant la nuit.
Hey.
Puis moi, c'est un film qui m'avait marqué.
Mais
bref, tu sais, je déteste qu'on considère l'homme comme étant un prédateur pour la femme parce que 99,9% des gars vont toujours être corrects avec les filles. Mais il y a de ce genre de trous de cul-là, des prédateurs sexuels. J'ai son nom ici, un d'entre eux, Maxime Villeneuve-Chapdelaine, qui lui faisait un peu ce que je viens de te décrire dans le film, puis tu te dis, hey, c'est un film, c'est un bon film,
c'est
à quel point ce gars-là, il est complètement fou. Lui, il s'introduit chez une femme. Il retire tout son linge et se colle sur elle. Pendant qu'elle, elle dort. C'était la deuxième fois qu'il le faisait. La première fois, il avait été l'observer. Il avait rentré dans son appartement pour l'observer.
Ça, c'est pas pour le moins grave, là.
Puis après ça, il avait quitté la pièce. Puis elle s'est levée le lendemain. Puis elle se doutait pas qu'il y avait eu quelqu'un qui l'avait observé pendant la nuit. Mais le deuxième coup, par exemple, là, elle s'est rendue compte qu'il y avait un gars qui était dans son lit. Puis au début, elle pensait qu'elle était en train de faire un cauchemar. Parce que tu sais, tu te réveilles, il est 3-4 heures du matin. T'es un peu mêlé. Puis en criant le nom de son fils, parce que la dame habitait avec son fils, ben lui, Maxime Villeneuve-Chapdelaine, a décidé de quitter l'immeuble, ce qui est une maudite bonne idée.
Ben oui.
Mais comme elle l'avait reconnu, les policiers ont réussi à mettre la main sur l'individu parce qu'elle avait vu ce gars-là se masturber quelques jours avant dans un abri d'autobus de mémoire. Okay. Puis elle avait dénoncé cet individu-là. Mais le gars avait cliqué sur elle, l'avait suivi pour savoir où elle habite. Puis finalement, a réussi à le retrouver. Donc, pendant la nuit, elle pensait que c'était le museau de son chat qui était collé sur sa cuisse. Mais finalement, c'était la queue du gars qui faisait en sorte qu'elle ait été réveillée par ça. Puis, heureusement, elle n'a pas été agressée sexuellement. Quoique, je considère ça comme une agression.
Ben oui. C'est vraiment une agression. Puis, tu sais, il manque un bout, là. Ce qui l'a réveillé, c'est d'entendre une personne excitée.
Oui, pendant qu'elle dormait.
Oh. Puis, il était accroupi, là, près de son lit, là. Puis quand elle s'est rendue compte qu'il était là, il a mis une main sur la bouche, il a grippé un sein, puis c'est là qu'a crié le nom de son fils.
7 ans
Il a voulu continuer plus loin, là.
Ouais.
7 ans et demi de prison. C'est pas suffisant, ça.
Non, c'est pas suffisant.
Pourquoi? Parce que cette femme-là, à tous les jours de sa vie, lorsqu'elle va s'endormir, va avoir peur de ce qui se passe pendant la nuit. Tu sais, puis ça m'a fait penser à quelque chose d'épouvantable. Pascal, elle m'a parlé de ça il y a de ça quelques mois. Il y a un technicien qui est venu remplacer une pièce dans son logement.
Ouais, ouais, ouais.
Okay? Elle a dormi.
J'ai pensé à la même chose.
Puis elle s'est réveillée, puis il y a des choses qui avaient... À un moment donné, elle a été réveillée par le bruit, puis après ça, quand tu t'es réveillée, il y a des choses qui avaient changé dans le logement.
Parce que le bruit que j'entendais, je disais, on dirait que ma porte s'est ouverte, là, ma porte, mais elle était barrée. Fait que je me dis, c'est dans ta tête, couche-toi. Moi, je joue avec ma paranoïa, là, fait qu'il faut que je la gère, là. Puis je suis comme, c'est dans ta tête, ta porte est barrée, ça doit être ton voisin. Par deux fois. Mais je me suis pas levée.
Oh oui, je comprends.
Jamais tu dis que le technicien est entré.
Ben oui.
Mais le problème, c'est que c'est l'été, il fait chaud, puis le technicien, ce qu'il faisait, c'est qu'il venait gérer l'air climatisé. Tu penses, je suis comment, moi, dans ma chambre? S'il fait chaud, puis c'est l'été, puis que lui, il vient réparer l'air climatisé.
Tu dormais comment?
Non, on va laisser auditeurs
l'imaginer. Je vois soudainement la manette de l'air climatisé, toi, sur le comptoir, quand je me lève.
Oh oui.
Elle était pas là, elle existait pas, la petite manette, là. Ouais. Auparavant, là.
T'as-tu fait une plainte?
J'en ai parlé.
OK.
Et puis?
J'étais vraiment contente que ma porte soit fermée, mettons, de chambre, là. Mais ça s'est réglé. Je l'ai adressé assurément. Puis là, au départ, c'était comme, je comprends pas, il est sûrement cogné. Je dis, ouais, mais s'il cogne avant, de toute manière, t'attends que quelqu'un t'ouvre, là. C'est pas je cogne, je peux entrer. C'est la même chose que si vous allez chez vos amis, quand vous cognez, est-ce que vous entrez, bon, peut-être chez vos parents, je sais pas.
Ça dépend. Si t'es en Beauce, tu cognes pas.
Tu rentres, tu prends une bière.
La première fois que je me suis aperçu en Beauce, c'est ça. Si tu laisses la porte débarrée, ça se peut que ton voisin rentre dans la maison, puis « Hey, salut, comment ça va? Hey. » T'as peur. Moi, je viens du centre-ville de Québec. Faut que tu cognes d'entrée.
Pas juste ça, tu sais. La clé d'un technicien, là, moi, ça m'a toujours inquiété de me dire... Compagnie de gestion d'immeubles, c'est une chose. Mais ils ont des techniciens qui travaillent pour eux. Eux, ils ont des genres de passe-partout. Tu sais, ça tombe sur un malade, le passe-partout, là.
Je vais te raconter quelque chose qui va pouvoir te faire peur, là.
Super.
Moi,
c'est le fun, là.
Dans ma transition entre mon ancien emploi et l'emploi que j'ai là actuellement, j'avais des moments où je pouvais pas travailler. Une couple de mois, je pouvais pas travailler. De mémoire, c'était 6 mois. Mm-hmm. Ce qui faisait en sorte que j'ai dit à mes chums, avez-vous besoin d'aide? Fait que j'ai fait de la gestion d'immeubles. Et je me promenais effectivement avec des trousseaux de clés. Puis Pascal, j'ai retrouvé ce trousseau de clés-là qui était encore dans mon char.
La semaine passée.
Fait que tu pourras retourner quand tu veux.
C'était même plus avec le nom de l'entreprise sur ton dos. Là.
Ouais.
Fait que tu pourrais faire ce que tu veux.
J'ai jamais eu le nom de l'entreprise sur mon dos.
Non, mais en voulant dire.
C'était pour aider de mes chums.
Oui, pas une veste, mais quand tu travaillais pour eux, tu avais un professionnalisme accordé aide. Tu te devais, si tu voulais pas perdre ta job, de le respecter.
C'est ça.
Là, si mettons, c'est n'importe qui d'autre que toi qui a encore le trousseau de clés, qui travaille plus pour l'entreprise, qui a pas peur de perdre sa job.
Fait que des gens qui fonctionnent sur une base de confiance. Puis Maxime Villeneuve-Chapdelaine va être en prison pendant plus de 7 ans. On dit que quand les policiers ont mis la main sur lui, il détenait également plusieurs fichiers de pornographie juvénile. Il a partagé des fichiers très explicites de jeunes filles nues avec d'autres personnes. Il a envoyé des vidéos de lui en train de se masturber à une autre personne qui semblait mineure. Donc, les flics se sont arrangés pour ramasser un dossier qu'ils mettent en tôle pendant 7 ans. Comment ils ont réussi à le trouver? Cet individu-là, est-ce que vous avez idée? Parce que avec ce que la dame a dit comme description, qu'elle l'avait reconnu parce que c'était masturbé.
Mais elle connaît pas son nom, etc. Là.
Exact. Ben, eux autres, ils ont regardé dans le fichier des prédateurs sexuels.
Okay.
Auxquels, toi puis moi, on n'a pas accès, c'est... malheureusement. Et sont tombés sur lui. Puis quand les policiers l'ont rencontré, ben, il a tout de suite avoué ses crimes. OK? Mais ce fichier-là, là, il est déjà paru au Québec. De mémoire, c'était dans le Journal de Québec.
Oui.
C'était
j'ai
le
la même
fichier
mémoire que toi.
Des prédateurs sexuels, puis de mémoire,
puis le titre, c'était « Avez-vous un prédateur sexuel près de chez vous?
» Il y avait une carte, là, c'était déjà localisé, mais tout ça qui était passé au criminel et accusé foncièrement. Ouais. De...
Fait que ça doit faire... Josh, mon fils, mon plus vieux, Josh a 10 ans. Ce qui fait en sorte que ça doit faire à peu près 10 ans, cette carte-là.
Oui, 10, oui, oui, c'est 9, ça, ça doit durer entre 8 à 10 ans. Là.
Ouais.
C'est ça.
Dans ce coin-là. Puis là, ben, ton réflexe, c'est à la grandeur checké. Du Québec, on vous mentionnait où étaient les prédateurs sexuels. Fait que moi, je me suis dit, on va aller voir les pitons à Montréal. C'est sûr qu'il n'y en a pas à Québec. On va aller voir les pitons à Montréal. Incroyable, il y en a beaucoup des prédateurs sexuels à Montréal. À Québec, on doit être mieux au niveau des prédateurs sexuels. T'sais. Les prédateurs sexuels, c'est juste montréalais, ça. Il y en avait 3 dans ma rue. Sur la rue Dussault à Lévis, là, juste à côté de, du centre de curling.
Ouais, ouais.
Il y avait 3 prédateurs dans ce coin-là. Que j'ai fait, j'ai paniqué.
C'est clair.
Ouais, je veux dire, parce que moi, vois-tu, j'avais
eu le même réflexe que toi. Puis moi, il n'y en avait pas à proximité de chez moi. Fait que j'étais rassuré parce que les gars s'en allaient à l'école à pied le matin. T'sais, c'est niaiseux, mais tu repenses toujours à ça. Ouais. Non, mais mes boys qui sont... 3e, 5e année, ça en va à l'école à pied.
Mais c'est un peu challengeant. Parce que quand t'es parent, c'est... puis n'importe, t'es humain, là, c'est super émotif. Ouais. Là, puis c'est sûr que tout ton cerveau veut savoir son où. Uh-huh. Tout ton cerveau se concentre sur la sécurité de tes enfants, veulent pas leur adresser la parole et tout. Mais en psychiatrie, là, ceux qui s'occupent des déficients, en fait, en termes de sexualité, là, ce qui explique, en fait, avec ces déviances-là, c'est qu'une fois qu'ils sont accusés, puis qu'ils sont traités, puis ils ont une thérapie, puis tout ça, le pire qui peut arriver, c'est l'exclusion sociale. Parce qu'en étant exclué de la société,
en effet,
ça fait en sorte qu'il va retomber peut-être dans ses manies ou dans sa déviance sexuelle ou dans... Puis c'est comme ça qu'il s'en sortira pas, puis il va recommencer. Fait que ça vient un peu contre nature, là, tout ça. Là, quand tu te le fais expliquer... Tu peux comprendre, mais ton émotif ne veut pas.
T'as-tu remarqué à quelque point, à chaque fois qu'on pose des questions à des lologues, il y a des problèmes?
C'est-à-dire?
Il y a tout le temps des problèmes. Tu sais, on dit, ouais, mais admettons qu'on avait un registre des prédateurs sexuels pour savoir son où les pédos. Les lologues arrivent et disent, non,
l'exclusion sociale.
L'exclusion sociale.
Ouais, mais ça tient ce que Pascal dit, en
exact,
effet.
Exact. Mais moi, je vais penser à mon enfant avant le pédo.
Mais c'est émotif, c'est sûr. Ça. Même si je pense que tout le monde va là en premier, sauf que l'explication est somme toute professionnelle et scientifique.
Ce que je vais dire, puis je vais essayer de ne pas identifier, mais en même temps, je vais dire exactement c'est où, fait que les gens de l'endroit vont savoir c'est où. Quelques années avant que ce fameux registre des délinquants sexuels paraisse dans le Journal de Québec, il y a eu une histoire dans le secteur où j'habitais à Lévis où le gars avait été arrêté pour parce qu'il avait fait de quoi à des enfants. Mm-hmm. C'est un pédo. Okay?
Ouais, ouais.
Puis quelques jours plus tard, son immeuble à logement avait passé au feu. C'était un deux logements. C'était en arrière du Ashton à Lévis sur le boulevard Guillaume Couture. Mm-hmm. Fait qu'il y a des gens qui ont dit « OK, le pédo habite là. »
On fait la fête.
Fait qu'il reviendra plus ici. Ils se sont assurés qu'il n'y a personne dans l'immeuble.
Bon,
ils ont juste crissé le feu pour faire brûler l'immeuble au grand complet. Puis ça a été longtemps un terrain vague. Je sais pas s'il y a quelque chose de nouvellement bâti, mais c'était juste en arrière du Ashton à Lévis. Fait est-ce que ça ferait ça? T'sais, mettons, tu mets le registre des délinquants sexuels visible pour tout le monde, est-ce que ça ferait ça? Je pense pas. J'imagine que c'est un événement
extrême.
Isolé. Mais moi, si je découvre que j'ai un pédo qui habite à côté de chez nous, je déménage.
Oui, ça donne pas le goût. Il y a beaucoup de textos. Quelqu'un qui dit « Je suis technicien dans un complexe de condos de luxe. J'ai des passe-partout, les clés. » là. Puis quand j'ai été engagée, ils ont fait un screening d'antécédents criminels.
Oui.
Et je peux pas effectivement m'en servir à mauvais escient. Là. Ça serait justement un congédiement instantané. Ils donnent pas ça à n'importe qui, si on peut vous rassurer. Quelqu'un qui dit ça. Quelqu'un d'autre qui dit « Ma mère, elle est sourde et par 2 fois le concierge est entré chez elle pour faire des travaux. Une fois, elle était dans la douche et l'autre fois dans le salon. »
Mais tu sais, pour revenir à ton registre, c'est très challengeant parce que moi, j'ai un couple d'amis que leur voisin est un médecin qui a été accusé de transmission puis de pornographie juvénile, mais à l'heure actuelle, il est en attente de son procès, fait qu'il n'est pas à l'intérieur. Mm. Mais eux autres, ils ont des boys à la maison. L'été, ils se baignent dans la piscine.
Ils se disent, regarde-tu?
Ben, c'est ça, tu sais. Fait que c'est très challengeant. Tu fais quoi? Ouais. T'es là, eux, le gèrent en surveillant, entre guillemets. Mais t'es pareil, tu te dis, Colin, c'est juste à côté de chez nous. Je fais quoi? Puis il y avait, tu sais, un coup que la nouvelle sort, tu te dis, hey, ouais, comme c'est vrai qu'il y avait souvent des jeunes qui étaient dans cette maison-là. C'est vrai qu'on se posait des questions. T'sais. Fait que là, il y en a-tu un moment donné qui a été agressé? Il y en a-tu un, tu sais, c'est challengeant sur le fait de surveiller tes enfants, puis c'est challengeant aussi sur ta responsabilité civile de dire hey, j'aurais-tu dû te dénoncer avant?
Ouais.
Mais je m'attendais pas à ça.
Moi, t'sais. Je suis pour un registre des délinquants sexuels, puis je comprends les lologues de dire ouais, mais là, vous allez les isoler, ça va peut-être être encore pire, savez-vous quoi? Moi, penser à nos enfants avant de penser aux prédateurs sexuels. Puis je salue deux individus qui ont milité longuement pour justement un registre des prédateurs sexuels. L'ex-sénateur Pierre-Hugues Boisvenu.
Bien sûr.
Qui j'avais le plaisir de presque chaque semaine quand j'ai commencé ici à la station. Puis mon collègue du lundi soir, Maître Marc Bellemare, qui voulait justement un registre des prédateurs sexuels. Et qui est la politicienne qui s'est greffée sur ces deux individus-là avant d'être élue? Est-ce que vous vous souvenez?
Non, je ne sais pas, vas-y. 418-971-1021,
418-971-1021. Qui est la politicienne qui a dit, à partir du moment où la coalition Avenir Québec va être au pouvoir, vous pouvez être sûr que je vais vous présenter...
J'irai avec Geneviève Guilbeault.
Le registre des délinquants sexuels, tu as raison. C'est Geneviève Guilbeault qui avait fait cette promesse-là, cette fausse promesse-là, pour finalement penser que le dossier va sombrer dans l'oubli. Savez-vous quoi? Il y a d'autres choses qui s'en viennent sur le fameux registre des délinquants sexuels. Il y a d'autres mesures qui vont être mises en place par les militants de ce registre-là. Puis Geneviève Guilbeault va en avoir plein les dents. Plein les dents.
Ah, Geneviève Guilbeault, elle n'a pas fini d'en avoir plein les dents avec plein de dossiers, honnêtement. Mais moi, je suis comme toi, je suis pour vraiment que ce registre-là soit public pour justement la sécurité de nos enfants. Moi, je suis pour ça. Je suis pour qu'on sache dans quel quartier on va aller habiter. Tu regardes, là, j'ai une machine maison, là, on a signé papier, là, mais s'il y avait ce registre-là, c'est sûr, je vais regarder.
Attends un peu. Tu viens de t'acheter une maison?
Oui, mais t'achètes une maison,
Yvan. Est-ce que vous avez acheté une maison?
Oui. On passe à la caisse tout à l'heure.
Attends, ouais.
Félicitations.
Merci.
La famille est-tu complète, ben?
Oh, oui, la famille est complète.
C'est du sérieux?
45 ans, je ne retournerai pas là.
Commence à bâtir ton nid.
Je peux te poser une question?
Ben oui.
Tu as le droit de ne pas répondre. Mais tu sais, il y a beaucoup de... Tu sais, vous êtes un jeune couple, vous êtes en amour, ça va super, super bien. Mettons... Personnellement, je serais jamais capable, là, même d'aménager avec quelqu'un rapidement, même si c'était pas chez nous ou autre.
Ouais,
là. Est-ce que c'est par mesure financière?
Oui, ils sont cassés, deux.
Oui, c'est ça.
Non, c'est
on
pas
est
ça.
Trop endettés.
Ils vont être dépendants l'un de l'autre financièrement.
Mais il y a tellement des couples qui se disent, ben là, tant qu'à être heureux, tant qu'à être bien ensemble, ça fonctionne depuis quelques mois, ben pourquoi pas, au pire, on la vendra la maison, mais financièrement, ça va nous donner un lousse. Puis,
non, c'est pas ça, honnêtement. Ça vient plus vite qu'on pensait.
C'est l'amour.
Oui, mais on s'est dit l'année prochaine. Pas cette année, l'année prochaine, mais là, maintenant, c'est du coup, le marché immobilier quand même assez fou. Ouais. Tout
les deux,
le kit.
Vous payez mensuellement des
bonnes
sommes.
C'est ça. Fait qu'on s'est dit, regarde, on va surveiller le marché, on va regarder. Je connais une courtière immobilière justement qui nous aidait, puis à un moment donné, on est tombé sur une maison.
La famille reconstituée, là, avec les enfants des deux côtés. C'est là.
On va essayer de le décourager. Tu sais, là, quand elle va en avoir marre de toi,
elle va aller où?
Elle va regarder son hypothèque, elle va paniquer.
Ah, elle va paniquer, mais
je peux pas le sacrer dehors, je pognais avec.
Je sais.
Mais non, mais c'est
elle va peut-être se sauver chez sa mère ou chez son père à ce moment-là.
Fait que t'as réussi à mettre le petit oiseau en cage.
Ah, ben, dis de même, t'es dégueulasse.
Non, pas vraiment.
Tu l'as capturé.
Oh, pas vraiment. Il y a énormément d'amour dans notre couple. Puis, tu sais, l'avantage aussi qu'on a avec la famille reconstituée, c'est qu'on a une garde partagée complètement différente.
Ouais. Les enfants, quel âge?
Ça dénature pas. Ben, tu sais, moi, 17-15, puis ils valent, ils ont 13 et 11. Là.
Fait qu'il va y avoir toujours des enfants à la maison.
Ils sont quand même autonomes.
Mais
on
pas
est
en
habitué
même
avec
temps.
Ça, pas en même temps. Ils sont quand même autonomes. Puis, ça, pour de vrai, c'est un avantage. Tu sais, moi, je le sais, pour mon Edou, 15 ans, de dire, OK, cool, quand je vais être là, cette maison-là, tu sais, ça va être.
Mon petit cocon.
Mon petit cocon. Mes petites affaires.
Là,
ça,
la garde était
beaucoup.
Faite en conséquence, mais est-ce que vous auriez orienté la garde en conséquence, si jamais? Pourquoi c'est important pour vous?
Justement? Non, je pensais pas venir pour le psychologue. Hein?
Non, mais c'est correct.
Quand tu as dit je vais remplacer Denis. Là.
Ouais, mais ça touche plein de monde.
Mais c'est bien correct, j'ai zéro problème. Non, quand on s'est rencontrés, dans le fond, notre garde n'était pas du tout pareil, puis on a décidé de le laisser comme ça en disant hey, garde, allonge que les enfants ont. Là. C'est on s'est juste présenté rapidement nos enfants respectifs.
Mais c'est des belles étapes. Après ça, c'est le Viagra. Tout
un
ça.
Autre enfant.
Ah, exactement, le Viagra.
On reconnaît le gars dans la famille.
Puis quand t'entends ces histoires-là, Pascal, tu penses à quoi, là?
Tu chingues du nez?
Hey,
non, mais écoute, même...
T'es rendu où, toi, personnellement?
C'est quoi ta question?
Je pense que c'est le moment. Avant de parler du Super Bowl, là, il y a quelqu'un qui dit ça, c'est Dr. CV qui pose des questions. Oui.
Coucou!
Ça me fait plaisir de répondre.
Avant qu'on passe au prochain sujet, j'annonce un gros concours dans Marceau le midi.
Oh, va être dans!
J'en ai un peu parlé via de ça peut-être 2-3 semaines, là, parce que je veux que Pascal ait de l'amour.
Non, Yannick, non, je pensais que
je veux pas qu'elle tombe en amour, parce qu'après ça, elle travaille moins. Mais je veux qu'elle ait de l'amour. Je veux qu'elle ait de l'amour de la part des auditeurs.
Mais j'en ai plein d'amour dans ma vie, là.
Et comme je suis un auditeur, comme je suis un animateur très ouvert, je veux qu'elle ait de l'amour de la part des auditeurs et des auditrices.
Ouais, OK.
Embarquez pas là-dedans parce que Yannick, tout ce qu'il veut faire, c'est un show sur moi. Là. C'est faux là, qu'il veut que je sois entouré d'amour. Là. Il sait que j'en ai, il y a un bel entourage. Là.
Vous pouvez commencer tout de suite.
C'est vrai, ça. Je l'ai vu, ton bel entourage, jeudi dernier à Bulle & Whisky.
Ben, c'est ça.
Et voilà.
Vous pouvez commencer tout de suite.
Ouais.
Puis, ce qu'il faut faire, c'est d'écrire un poème.
OK.
Collègue de travail qui est Pascal CV. Son nom complet, c'est Caron Vézina.
Okay? Ouais.
Fait que Pascal Caron Vézina, il y a 300$ en jeu vendredi.
T'as mis de l'argent sur mon dos.
300
de cadeaux.
Ouais. De cadeaux.
C'est des cadeaux.
Des cadeaux de quoi?
J'ai 100$ des fromageries Victoria.
Oh. Non.
J'ai 100$ pour le gars qui va avoir réalisé le plus beau des textes ou le plus beau des poèmes. Parce que ça peut être un texte aussi, tu sais, les gars, on est un peu...
Ben oui.
Mais là, c'est quoi les barèmes?
C'est moi les barèmes. Fait que les gars, ça leur prend un texte où ils envoient de l'amour à ma collègue Pascal Caron-Vézina. Et les filles, c'est la même chose. Vous envoyez de l'amour à Pascal Caron-Vézina, en texte ou en poème.
Mm-hmm.
Puis vendredi, on va en choisir une dizaine parmi tous ceux qui auront participé. Oui.
OK.
S'il y en a 10, ce qui me surprendrait. Puis sérieux? Le grand gagnant, je fais un grand gagnant puis une grande gagnante. Mm-hmm. Fait que c'est sûr qu'il y a un 100$ des fromageries Victoria là-dedans. Puis le gars va avoir un 50$ de certificat cadeau au 7e ciel, plus un cadeau qui va aller au-delà du 50$. Donc, on va dépasser le 100$ de cadeau au 7e ciel pour le gars. Et ça va être la même affaire pour la fille. Fait que ça va être deux gagnants. Un gars, une fille pour le plus beau texte d'amour pour Pascal.
Mais là, c'est pas genre d'amour, je veux te dater, là.
Moi, je suis ouvert à tout.
Toi, t'es ouvert à tout.
Si je commence comme ça, hein, Pascal, quand je te vois, je me sens tata. Parce que Pascal Caron-Vézina, je me sens tata.
Ça commence mal.
Ça commence mal?
Excuse-moi. Ouais.
Non, c'est pas une bonne façon de croiser?
Tata, en plus.
J'ai essayé un rime plate.
Mais c'est une bonne idée? On prend la célibataire de la gang et on lui envoie de l'amour pour le 14. Parce que le 14, techniquement, à ce qu'on sait, elle est seule. Ou sur Messenger et Italie, ça, c'est une autre histoire.
Ouais, mais c'est ça, j'allais dire. Peut-être que l'Italien va être à Québec.
Puis c'est interdit.
C'est pas de vos maudites affaires.
Les gars, les filles, pour envoyer de l'amour à Pascal, c'est interdit d'utiliser ChatGPT.
OK.
OK? Parce que j'ai mon détecteur ici de ChatGPT.
Non, non, c'est
là.
Ça. Hey,
j'ai les mêmes watch, pas à l'aise.
Quand t'envoies de l'amour, il faut que ça vienne du fond du cœur.
C'est très gros. C'est très gros. S'il y a d'autres clients qui veulent se greffer à...
Mais il y avait d'autres célibataires dans la station, là.
Comment?
Il y avait d'autres célibataires dans la station, là, sur qui... pour qui on peut achever le monde autre que moi, là.
Oui, mais eux autres, ils vont trouver ça cool.
Toi, tu veux créer le malaise.
C'est tellement j'adore. Animal de foire, là.
Donc, ce sera vendredi. Envoyez-moi ça par texto au 418-971-1021. C'est important d'écrire Pascal Le dans votre texte. Là. Message pour Pascal Le. Puis là, vous envoyez votre texte par texto. Et moi, je vais être capable de vous retrouver d'ici vendredi. Puis vendredi, je ferai, s'il y en a 10, ben, je ferai la lecture de ces 10. Là, ouais. Puis les critères.
Ça.
Faisons les critères ensemble, sans Pascal. Faut que ce soit sincère.
Oui, bien sûr.
Faut que ce soit drôle.
Ça, c'est clair.
Ça peut être sarcastique.
Oui, parce que tu attires toujours les femmes par l'humour.
Oui.
Oui,
ouais, l'humour, ça fonctionne au coton. Ça. Fait que faut que ça soit
drôle. Ça serait fun aussi que ça soit pas du monde de 73 ans. Là.
Pis ouais, moi, c'est vrai. Tal d'âge, il faudrait mettre une tal d'âge. Mais non, ça peut pas être le père de Pascal qui envoie un poème.
C'est moi qui
ça serait tellement déplacé.
Fait que le concours est valide pour les gens de 18 à 110 ans.
OK, Cupidon, tu vas aller chercher ça. Ah, mais remarque que si c'est un riche héritier italien de 104 ans, peut-être qu'il y a une chance.
Fait que c'est 300$ en jeu.
Tellement.
300$ en jeu vendredi. Puis Pascal, qui sait? Qui sait ce qu'elle va dire cette journée-là?
Il arrive quoi si, mettons, je démissionne ce vendredi?
On trouvera un autre...
un autre cobaye!
Ben, un autre cobaye!
Quand on va lire tes lettres à Maxime Larouche.
Quand André était absente, Max s'était fait, s'était mis une perruque blonde pour attirer le monde sur Twitch.
Ah ouais, c'est
Max
ça.
Prendra la place de Pascal.
Tant qu'à être le cupidon des causes perdues, je prendrais Max.
Est-ce que c'est RH-proof? Est-ce que c'est approuvé par les ressources?
Pas du tout. Pas du tout. Après ça, ils vont me dire « Qu'est-ce que t'as fait à Pascal? » Je vais dire « Je m'excuse, je ne savais pas. »
Ouais, c'est ça.
Je suis désolé.
T'attends-tu à avoir une communication des patrons prochainement?
Hey, Yannick, t'es le démon en personne.
Oui! Super Bowl, mon chum! T'as-tu été déçu? Est-ce que c'est le pire Super Bowl que t'as, auquel t'as assisté? Parce que autant la mi-temps que le spectacle était, à mes yeux, à moi, épouvantable.
La mi-temps était poche, là, on va se le dire. J'ai détesté mon spectacle la mi-temps. J'ai même pas écouté jusqu'à la fin. Mais oui, c'est pas le fun d'un match à sens unique quand c'est censé être les deux meilleures équipes qui s'affrontent au Super Bowl. C'est jamais plaisant. T'sais, comme c'est pas plaisant de voir une série de la Coupe Stanley finir en 4 parce qu'il y a une équipe trop dominante. Alors, en effet, j'étais dans un Super Bowl que je me souvenais vraiment plate, c'est les Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre les Rams de Los Angeles où les Patriots avaient gagné 10-3. Fait que, il y avait eu un touché dans le match. Il était venu au quatrième quart.
Ouais.
C'était un match plate. Là,
si t'es
un, match
t'es un fan des Eagles, là. T'as payé des milliers de dollars.
Ah, ça, t'as aimé ton match, c'est ça.
OK, mais à quel point? Parce que t'en as pas eu tant que ça de match. Moi, tu sais, je décrochais. À un moment donné, t'aurais décroché, je suis sûr, comme fan des Eagles, dans les estrades, t'aurais pris de la bière, t'en regarderais plus ce qui se passe.
Ouais, mais c'est juste l'euphorie de voir ton équipe gagner le Super Bowl, surtout de mettre fin à cette séquence-là des Chiefs qui y allaient pour un troisième. Je pense que partisans des Eagles, t'aimes ça. Mes partisans de football, tu sais, il y en a plusieurs qui ont décroché avec raison. C'était pas un match, tu sais, ça s'est terminé 22 points pour les Chiefs, mais trois touches à partir de la fin du troisième quart où c'est déjà 34-0. Puis les Eagles jouent juste pour que le temps s'écoule. Là. Donc, il n'y avait rien d'un match-là. Là. Les Eagles ont été dominants sur le front offensif avec leur ligne à l'attaque.
Est-ce que Kisi avait une belle attitude avant le match?
Il trouve
parce
qu'il
qu'on les donnait gagnants. Moi, j'ai regardé là, l'arrivée des joueurs. Là, j'étais là, tabarouette, les gars. Là, déjà qu'on dit que vous allez gagner, là, t'arrives avec ton kit de velours des années 70, les lunettes trop grosses pour ta tête, t'essaies de passer pour une méga star, mais la game n'est pas gagnée. Puis, ils se sont fait ramasser.
Ben, tu sais quoi, mon chum Phil m'a fait remarquer quelque chose, puis j'ai dit, c'est vrai, c'est très intéressant. Du gars qui est ici rentré sur le terrain, c'est Patrick Mahomes et Travis Kelce en avant.
Exact.
Les deux rockstars, les deux vedettes. Ils regardent Philadelphie rentrer. C'est leurs joueurs de ligne offensive et défensive qui sont là en premier. Et où le match est gagné, c'est exactement là. Fait que Philadelphie, là, tu sais, je vais prendre un terme d'hockey, là, a joué comme une équipe de plombiers hier où tout le monde a fait sa job, puis on s'est rendu au championnat.
Ils sont entrés ensemble, ils ont joué
tandis
ensemble.
Tandis que Kansas City a beaucoup reposé ça sur ses vedettes, puis ça n'a pas fonctionné hier.
Ouais. Non, mais c'était tellement serré. Je vous dis, à chaque fois qu'Issy allait faire un jeu, la défensive était là. Il arrivait hyper rapidement.
C'était extraordinaire. Les quatre joueurs de ligne défensive, on n'a pratiquement pas fait de blitz, c'est-à-dire amener des joueurs additionnels en pression sur le corps arrière pour les Eagles. Puis on a touché à Patrick Mahomes à peu près à chaque fois qu'il reculait avec le ballon. Donc, pas faire de blitz, ça permet des couvertures très serrées au niveau des receveurs. Fait que tu voyais, Mahomes, il regardait, puis régulièrement, on voyait les angles de caméra. T'as cinq receveurs, Mahomes, il regarde, les cinq sont couverts. Puis là, hop, la pression arrive, il se fait saquer, il lance une interception. Donc, vraiment, là, Philadelphie joue un match parfait défensivement.
Puis Jalen Hurst, ça regarde sa progression. Au début, il n'était pas capable de tirer.
Non.
Puis là, hier, on va se le dire, là, il était pratiquement impeccable. Puis il court, ce gars-là. Cheval.
C'est un cheval. C'est un cheval de guerre là, quand il s'en va à la course comme ça. Là, 72 verges au sol. Jalen Hurts termine là-dessus. Pendant un an, sa photo de fond de cellulaire était lui assis sur le banc au Super Bowl avec les confettis des Chiefs qui tombent il y a
cela
2 ans.
C'est vrai,
il a visualisé ce moment-là pendant un an en se disant
« Je vais aller chercher.
L'an prochain, ça va être mes confettis, ça va être moi sur le stage.
Pourquoi il y a des gens qui ne l'aiment pas à ce point-là? J'entendais tellement des commentaires négatifs aussi.
Il tirait des canards au début de sa carrière.
Ah ouais, puis il y a vraiment eu une saison difficile au début de la saison. Là. Ça se replaçait en série. Une chance pour lui qu'il ait eu des bonnes séries parce qu'on se demandait même s'il n'allait pas perdre son poste en quelque part durant l'année.
Non, c'est une super belle histoire. Pierre-Louis qui écrit, il dit « Salut Marceau, on sait bien que tu prenais pour les Chiefs, mais les Eagles ont donné toute une leçon de football. Entièrement d'accord avec ça. Il était beau à voir hier. Je suis fan des Eagles, mais c'était une belle leçon de football qui nous a montré que la game se joue dans les tranchées et dans l'attitude aussi. »
Ah, vraiment. Les Eagles se sont présentés sur le terrain. Toute l'équipe a fait le travail.
Saquon Barkley, as-tu joué au-dessus de sa tête ou ça a été ça toute l'année?
Bien, Saquon Barkley, hier au Super Bowl, n'a pas connu un excellent match, mais toute l'année, je te sors une statistique, il y a eu 17 touchés au sol de plus de 40 verges cette année dans la NFL.
Ouais.
Il y en a 7.
Lui, il écrit-tu des poèmes?
Je sais pas. Tu l'aimerais?
Ce serait ton genre.
Ou Joe Burrow, tu veux-tu un petit poème de Joe?
Mais es-tu disponible?
Ouais, je sais pas.
Dan West, ça fait des années qu'il est avec sa blonde.
Ouais, ça c'est, sort, c'est plus ça qu'il pourrait le dire.
Ah, j'ai pas ton attitude, moi. Ouais, quand les gens s'aiment, là, j'arrive pas en disant coucou.
Ça se tasse des meubles.
Là. Un pion, ça se tasse pas tant ma vocation.
C'est sûr que ça doit être probablement une top modèle. Peut-être
sûrement.
Même plus riche que lui.
C'est smart.
Peut-être.
Non, je pense que c'est des high school sweetheart.
Ouais.
Ah oui?
Sweetheart.
Non.
Ah,
je pense qu'ils s'aiment depuis un bout.
C'est beau l'amour.
Oui.
Fait que bref, merci, Jeff.
Ça fait plaisir.
Je te souhaite de passer une belle
vous
fin de journée.
Aussi.
Puis je rappelle le concours de Saint-Valentin qui commence aujourd'hui, les amis. Vous écrivez un message d'amour à Pascal par texto.
Tellement pas. J'ai déjà laissé un gars parce qu'il m'a fait une chanson. Fait que c'est pas la bonne façon.
Ah,
comment tu
ouais.
Prends,
je vais peut-être te faire une chanson vendredi.
Pour que je quitte.
Pour que tu quittes. 418-971-102, c'est par texto. Ça vous prend un message d'amour pour Pascal, que vous soyez homme ou femme. C'est plus de 300$ qui est à gagner pour vendredi parmi... les 10, si on en a 10 messages là, pour Pascal. On veut pas la laisser de ça. Là.
Ben non.
On est tellement sûr que ça va écrire qu'on met ça 400 piastres de prix sur la tête, Simon.
Bon.
C'est vraiment... Moi, je suis maltraité.
C'est ce que la promo me dit. C'est, attends un peu, les messages d'amour à Pascal, faudrait que tu mettes un prix accroché à ça.
Ouais.
Je suis maltraité. Premièrement, on me demande pas si je suis consentante. On sait pas s'il y a quelqu'un qui pourrait être triste de ce qui se passe en onde. Puis on y va comme ça, avec un cheval d'assaut.
J'aurais pu être pire.
Ah oui?
Oui.
T'es-tu sûr?
Parce que le texte choisi, que ce soit pour l'homme et la femme, ben à la toute fin, il y aurait eu à choisir entre le 100$, la fromagerie Victoria et ou une date avec Pascal.
Ouais, c'est ça.
Il y aurait
comme Jenny Bouchard avait
Victoria.
Fait avec le gars, justement, on parle de Super Bowl.
Mais imagine-toi si le gars choisit le 100$ de la poutinerie Victoria.
Ouais.
Hein?
Hey. Ça aurait été un 10.
Un petit
incroyable.
Malaise. Ouais. Midi 33, on fait une courte pause et on vient. Rage against le midi. Il neige sur Québec, c'est moins 11 degrés actuellement avec le refroidissement éolien. C'est une température ressentie de moins 17. Pour ce soir, un autre 2 cm va s'ajouter, surtout si vous êtes au secteur nord de Québec, minimum de moins 17. Demain mardi, des averses de neige parfois fortes, accumulation de neige entre 2 et 4 cm avec un maximum de moins 6. En soirée, ciel dégagé, minimum de moins 23. Et mercredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de moins 12 degrés. Vous désirez nous joindre en studio par texto 88-971-1021. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, merci de nous en informer. Vous êtes nos yeux, nos oreilles. En fin de semaine, Pascal, Donald Trump est encore revenu. Là, bon, on l'a vu au Super Bowl. Ça semble visiblement avoir bien été pour lui puisqu'il a été chaleureusement applaudi. Mais il est revenu avec son histoire du Canada qui devrait devenir le 51e État américain. On dirait qu'il lâche pas le morceau. Puis au début, Pascal, j'étais persuadé, on parle il y a de ça quelques semaines, quand il a commencé à aborder le sujet, j'étais persuadé qu'il niaisait, mais de plus en plus, on a l'impression que c'est dans son plan pour les deux prochaines années.
Du moins, essayer de faire un genre de contorsion pour mettre la main sur nos ressources, puis on dirait que le canal qu'il a trouvé pour le faire, c'est de nous annexer. Est-ce que c'est faisable? C'est une autre question, mais est-ce que lui veut le faire? Ça, on dirait que oui.
Donc voilà, ça permettrait à Donald Trump de faire en sorte que le Canada devienne le 51e État américain à avoir accès à des richesses inestimables. On a le plaisir de jaser avec Yvan Clich, qui est ex-délégué commercial à Hydro-Québec international et ex-fonctionnaire international. Il se consacre aux enjeux d'énergie. Monsieur Clich, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là avec nous. Si vous étiez Donald Trump, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne stratégie d'annexer le Canada aux États-Unis?
Ben écoutez, je vais quand même être clair. Je voudrais vraiment pas que ça arrive, mais si on prend le point de vue, comme votre question l'indique, le point de vue de Donald Trump, c'est clair que le Canada a des richesses absolument exceptionnelles. autant présente que pour l'avenir. La première d'entre elles, c'est clairement le pétrole. Ouais. On est quand même le Canada, le quatrième producteur mondial de pétrole. Les États-Unis sont le premier, donc les deux pays ensemble, on serait pas loin du quart de la production mondiale de pétrole. Donc ça donnerait évidemment un pouvoir de marché exceptionnel et ça serait très nettement la première puissance pétrolière de la planète.
Avoir accès à l'eau
très loin.
Ouais, avoir accès à l'eau douce aussi. Mm-hmm. On a une bonne réserve d'eau douce. Je pense que ça représente 3% au niveau mondial.
On a du bois.
Oui, effectivement. Puis avec les États-Unis, combiné Canada-États-Unis, ce serait le premier réservoir d'eau douce au monde. Ce serait le territoire américain. Donc, ça aussi, c'est un intérêt évidemment majeur pour les États-Unis. On l'a vu avec la Californie, il y a des enjeux de sécheresse aux États-Unis. Donc, avoir accès à davantage d'eau, c'est aussi un avantage important. Et l'autre qui est aussi essentiel, c'est les minéraux critiques. Rappelez-vous, M. Trump a parlé de faire un deal avec l'Ukraine, donc de faire de l'aide militaire en contrepartie d'accès aux ressources minérales. Là, on parle vraiment des choses qu'on connaît au Québec, la production minière, du zinc, du cuivre, du nickel, du cobalt, etc. Puis ça aussi, bien sûr, le Canada est une puissance minière. On est des acteurs très importants, bien sûr, dans l'économie canadienne. J'entends l'industrie minière, mais également dans le monde. Quand vous voyagez un peu dans le monde, c'est toujours surprenant de voir la présence des entreprises minières canadiennes un peu partout dans le monde. Je pense entre autres à l'Afrique.
Parce que si Trump n'a pas accès à ça, ce serait difficile pour lui de bâtir construire des avions, que ce soit civil ou militaire. Il n'aurait pas accès à l'acier inoxydable, les panneaux solaires, les ordinateurs, les cellulaires, les autos électriques, c'est bien ça?
Oui, les iPhones, etc. Donc, écoutez, on a des présences de minéraux en quantité phénoménale dans à peu près dans notre quotidien là, pour différents appareils, pour différents usages. Et il est prévu que l'exploitation minière et que les minéraux vont devenir encore plus importants dans le monde de demain. On prévoit là, que la production minière va minimalement tripler d'ici 2050 pour faire face aux besoins de l'économie et aussi de la transition énergétique. Alors, c'est clair que ça devient un actif essentiel pour les États. Au niveau du raffinage des minéraux, c'est vraiment dominé par la Chine. Alors, il y a aussi là un enjeu politique pour les Américains de reprendre la main sur les chaînes d'approvisionnement reliées à l'industrie minière, parce qu'on sait que ça va être de plus en plus critique pour l'économie mondiale dans les prochaines années. Alors ça, oui. Évidemment, le Canada a tout ça. Puis je reviendrai au pétrole. Le seul domaine où M. Trump bombe vraiment le torse, là, puis parle de domination, c'est en matière d'énergie. Il parle pas que les États-Unis deviennent indépendants énergétiquement. Il parle de dominer le secteur mondial de l'énergie. Alors, c'est sûr qu'en additionnant les réserves pétrolières et gazières du Canada à celles des États-Unis, qui sont déjà le premier producteur fossile au monde, ça donnerait une position incroyablement dominante sur le marché mondial d'énergie fossile.
Il retrouverait peut-être un peu la splendeur d'autrefois en termes d'économie. Là, les États-Unis qui ont failli se faire dépasser un peu avant la Chine, là, avant la pandémie, côté économique. Mais M. Clich, tout ça, bon, est clair, est évident, ce qu'on possède. On l'exploite mal. Tantôt, il y a un invité qui va venir aussi nous en parler, en fait, de ces ressources-là là, pour extraire puis transformer. Mais on l'exploite mal. Est-ce qu'on a pris trop de retard pour peut-être confronter un Donald Trump qui voudrait mettre sa menace, je la mets entre parenthèses, à exécution? Ou encore, on pourrait arriver à restructurer un peu nos affaires commerciales puis aller de l'avant et devenir comme on un peu individuel là, dans ce courant-là?
Bien, ce que je peux vous dire, c'est deux niveaux de réponse. La première, c'est qu'on serait très content aujourd'hui si on avait donné l'approbation à un projet comme LNG Saguenay, là, qui faisait acheminer du gaz naturel de l'Ouest canadien pour les marchés d'exportation. C'est sûr qu'on aurait des acheteurs du côté de l'Europe. Et puis également, pour le projet Énergie-Est qui transportait du pétrole aussi de l'Ouest vers les Maritimes. Alors, ces deux projets-là n'ont pas vu le jour. Et aujourd'hui, on serait extrêmement content de les avoir parce que ça nous permettrait justement de nous diversifier du marché américain. Maintenant, quant à la suite des choses, je pense qu'il y a un leadership là, du côté du gouvernement et des provinces pour qu'on mette tous les projets énergétiques sur la table, y compris les projets d'énergie renouvelable, les lignes de transport électrique, puis qu'on arrive à un consensus pour les développer, ces infrastructures-là,
ouais.
Et s'assurer que la réglementation soit pas trop tatillonne pour assurer leur succès. Alors ça, je pense que c'est vraiment... Moi, je pense que c'est devenu un peu une urgence nationale là, que de s'attaquer à ces enjeux-là. On va être impacté économiquement par les États-Unis, les actions américaines. Et honnêtement, en termes de revenus compensatoires pour faire face à ça, clairement, l'exploitation de l'énergie pétrolière, ça reste un atout majeur. Écoutez, juste donner un exemple, que les exportations de pétrole de l'Alberta, c'est autour de 150 milliards par année. L'hydroélectricité du Canada, c'est 4 milliards. Donc, on n'est vraiment pas sur le même registre. Si on veut vraiment créer de la richesse pour les prochaines générations face aux menaces américaines, moi, je pense qu'il faut envisager sérieusement des voies d'acheminement, donc des tuyaux pour acheminer l'énergie fossile canadienne hors du marché américain.
Entièrement d'accord avec vous. C'est important de se diversifier et de ne pas juste dépendre des États-Unis. Quand Trump dit qu'il n'y a pas besoin du Canada pour être autonome, est-ce qu'il dit la vérité? Visiblement, avec ce que vous m'amenez comme réponse aujourd'hui, Trump dit des choses, mais il sait pertinemment qu'il y a besoin de ressources du Canada.
Non, c'est entièrement faux, monsieur. Les États-Unis ont besoin du Canada. Ne serait-ce que justement, c'est pas mon domaine d'expertise, mais l'aluminium essentiellement qui vient du Québec, donc ils le produisent pas en quantité suffisante. Alors c'est clair qu'ils ont besoin de ça. Et si je reviens au domaine que je connais le mieux, le pétrole, on l'oublie un peu, mais le pétrole, ça n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques. Il y a ce qu'on appelle du pétrole léger puis du pétrole lourd. Le Canada produit essentiellement du pétrole lourd et envoie 4 millions de barils par jour aux États-Unis. Et les raffineries américaines du Midwest américain sont configurées pour ce pétrole lourd-là et de leur demander de changer faire du raffinage de pétrole léger, ça serait des centaines de millions de dollars en investissement. Ils sont très contents de la relation commerciale avec le Canada et les menaces tarifaires de M. Trump les embarrassent lourdement. Alors pour elles, c'est absolument pas avantageux, sans compter que s'il y avait des tarifs, ils raffinent le pétrole en essence, ben il y aurait une augmentation des prix de l'essence dans le Midwest américain et normalement c'est supposé être l'objectif inverse de M. Trump qui avait promis de diminuer les prix de l'essence de moitié. Donc non, les raffineries américaines seraient les premières à vous dire qu'ils ont largement besoin de ce pétrole lourd du Canada. S'il y avait des problèmes d'interruption, il faudrait qu'ils se retournent vers le Venezuela, qui est sous sanctions américaines.
Oui.
Donc, ils n'ont pas beaucoup d'options, là. C'est le pétrole, ils ont besoin du pétrole canadien et cet exemple-là se multiplie dans un grand nombre de secteurs, comme on l'a entendu ces derniers jours.
Là, je regardais les statistiques. 85 % de l'engrais qu'on envoie aux agriculteurs aux États-Unis, ça provient du Canada.
Oui, exactement. Et puis, même chose, encore une fois, je le disais pour l'aluminium et tellement d'autres produits. On parle souvent de l'automobile, mais il y a un pacte de l'auto qui a été signé il y a plusieurs décennies. Tout le monde est content. On s'est partagé la tarte entre la production canadienne, la production américaine. Les chaînes d'approvisionnement sont extrêmement bien intégrées. Et puis là, M. Trump vient bousculer tout ça de manière absolument arbitraire. C'est évidemment des choses qui étaient inattendues et qui sont honnêtement très regrettables.
Pour ce qui est de l'énergie, bon, on a des barrages, on a des éoliennes, on a effectivement des gaz comme le pétrole, des gaz naturels et tout ça. Est-ce qu'un jour au Canada, plus précisément au Québec, parce qu'au Canada, de mémoire, il y en a 19, mais est-ce qu'un jour au Québec, on pourrait revenir avec des mini-centrales nucléaires comme on a partout dans le monde et qui seraient, encore à ce jour, à moins que vous me disiez le contraire, là, le moyen le plus environnemental de produire de l'électricité. Est-ce qu'on pourrait revenir au nucléaire au Québec sans nécessairement avoir la même formule qu'on avait avec Gentilly?
Bien, c'est encore, comme je mentionnais tout à l'heure pour les pipelines et les gazoducs et pipelines de pétrole qu'on serait content d'avoir, je vous dirais qu'on serait certainement content aujourd'hui si on avait effectivement été de l'avant avec la réflexion de la centrale de Gentilly. Le nucléaire, ça a quand même un grand avantage, ça fournit de l'énergie en continu, ça n'émet pas de gaz à effet de serre. Par contre, évidemment, il y a des enjeux au niveau des coûts. Souvent, les dernières années, les centrales nucléaires ont connu d'importantes augmentations de coûts et des allongements de délais. Par contre, il y a une nouvelle technologie qui est en train de se mettre en place en Ontario, ce qu'on appelle les petits réacteurs modulaires. Et ça, l'Ontario est à fond derrière cette technologie-là et les premiers projets vont voir le jour au cours d'ici les années 2029-2030. Et ça reste, bien sûr, devant l'augmentation importante de la consommation d'électricité au Québec, une option qui est intéressante. Alors, est-ce qu'on doit la mettre en œuvre tout de suite? Je pense pas. Je pense qu'on a encore d'autres options comme l'hydroélectricité, l'éolien. Ouais. Mais je pense qu'on doit garder un œil très attentif sur le développement de cette nouvelle technologie chez notre voisin ontarien. Et peut-être qu'à partir de 2035, ça deviendra une option intéressante.
Oui, mais je ne veux pas faire de politique avec vous, M. Clich. C'est pas pour ça qu'on se parle aujourd'hui, mais de savoir que ça existe depuis des lustres au Canada, puis qu'on est en train de mettre ça en place, le nouveau nucléaire, ici, chez nous, au Canada, mais j'ai pas l'impression qu'au Québec, ça va passer. On va tout faire en sorte pour ne jamais avoir du nucléaire ici, parce que, à leurs yeux, aux Québécois qui sont pas informés, la centrale nucléaire, c'est un peu ce qu'on voit dans les Simpsons, avec un Homer qui pèse sur le piton quand ça va pas bien, puis ça répare tout. C'est clair et net que les politiciens n'embarqueront jamais là-dedans parce que les gens ont peur de ça, sachant pas que ça existe ailleurs et que ça va très bien.
Ben écoutez, c'est toujours un peu drôle d'entendre ça parce que la France, quand même qu'un pays que les Québécois vont souvent en visite en relation d'affaires ou sur le plan touristique. Les Français, c'est à 70% de l'électricité provient du nucléaire et ils exploitent des centrales depuis après la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, sans incident majeur. Donc, je pense que sur le temps long, on voit déjà qu'une centrale nucléaire, en général, c'est quand même sécuritaire. Oui, il y a eu des incidents en Russie et au Japon, mais au Japon, rappelons-nous, c'est une catastrophe naturelle.
Ouais.
Et donc, moi, je pense qu'en gros, si on est objectif, le dossier sécuritaire de la filière nucléaire a bel et bien été démontré. Je ne dis pas que c'est sans risque, mais ça fait maintenant des décennies que plusieurs pays ont des centrales nucléaires, dont les États-Unis. Il y en a aussi au Canada,
oui.
Il y en a en France, il y en a en Chine, il y en a au Japon. Et puis, à part évidemment quelques événements qui ont impacté l'imaginaire, en général, ça a été fait de façon très, très sécuritaire. Puis ça fournit pendant tout ce temps-là de l'énergie fiable et sans émissions de gaz à effet de serre pour les populations.
Monsieur Clich, ça a été un plaisir de parler avec vous ce midi.
Merci beaucoup, au plaisir, au revoir.
Au revoir. Yvan Clich est ex-délégué commercial à Hydro-Québec International et ex-fonctionnaire international. Il se consacre aux enjeux d'énergie. Puis on se posait la question, est-ce que Donald Trump a raison de vouloir annexer le Canada? Est-ce que Donald Trump a raison de dire qu'il n'y a pas besoin du Canada pour vivre alors que c'est totalement faux? Mais M. Clich en a fait encore une fois la démonstration assez rapide. On a des minéraux que les Américains ne sont pas capables d'avoir. Au niveau énergétique, on est très, très, très intéressant pour eux, entre autres pour le pétrole lourd.
Mais la seule chose, c'est qu'on n'a pas défini de structure et on n'a pas eu l'adhésion citoyenne sur tellement de projets que je me demande si cette nouvelle tangente-là va le faire, mais ça va pas être trop tard. T'sais, y a-t-il un train qu'on aurait dû prendre il y a 10 ans, il y a 20 ans pour être sûr d'être en selle si quelqu'un arrive puis cogne à la porte pour dire « j'ai envie de vos ressources, j'ai envie de le faire avec vous » puis voyez-vous, avec nous, ça va prendre 4 ans au lieu de 15.
Ouais.
Puis là, on parle pas d'une adhésion facile puis on parle pas d'une réalisation du 51e État là, dans la poche pour Donald Trump par rapport au Canada, mais même entre les provinces en ce moment, puis j'aurais aimé ça l'entendre là-dessus, on y reparlera plus tard peut-être, mais est-ce qu'il y aura l'obligation, encore plus que ce qu'on fait dans les dernières semaines, pour les provinces de travailler de façon collaborative là-dessus?
Encore un 25 % là, de taxes là, qui va nous être mise en place peut-être dans les prochaines heures, là, parce que Donald Trump a encore signé des maudits décrets en fin de semaine.
C'est, il est rendu une caricature de lui-même avec ses décrets. Là.
C'est l'acier qui va être touché. Écoute, c'est une grosse journée pour Donald Trump, mais c'est aussi c'est assez dur aujourd'hui pour les gens qui sont dans l'aluminium. On parlait avec la gang de Truck Stop Québec aujourd'hui, Benoît Terrien. T'sais, dans les dernières semaines, il y a des compagnies qui savaient que Donald Trump, avec son 25 % allait causer du trouble. Donc, on s'est dépêché très rapidement avec des camionneurs à shipper du stock l'autre bord. Mm. Avec des entrepôts où là, on va entreposer de l'aluminium à côté pour justement essayer de réussir à faire des affaires avec les copains américains. C'est assez particulier ce qui se passe avec le grand range l'autre côté. OK. Rappel des deux défaites du Canadien en fin de semaine au Centre Bell. 4-0 face aux Devils du New Jersey et 5-3 face aux Lightning de Tampa Bay. Qu'est-ce qui se passe avec notre Canadien? On en parle avec notre experte des Canadiens, Pascal Cévé.
Oui, oui. Découragement, je dirais. Restructuration, découragement, manque de pilote dans l'avion, leadership. Ce serait un peu là, la manière dont je vais résumer ce qui se passe avec le Canadien en ce moment. C'est pas pire.
Ouais, c'est
mais
bon.
Si on parle de foot, par exemple, là, quelle victoire des Eagles hier, blanchissage jusqu'à la troisième partie du show, parce que c'est un show Super Bowl.
Oui.
T'as perdu avec ton pool.
Comme disait l'autre, you're fire.
Pourquoi?
Ben, parce que
pour le sport?
Tes connaissances du Canadien, ça vaut
pas
de
la main. Oh non, c'est au-delà de tout le monde.
Mais le Canadien pose jusqu'au 22 février pour la confrontation des quatre nations. Ça commence mercredi. Premier match des quatre nations, c'est le Canada contre la Suède mercredi. Donc, on va vous parler de ça, bien entendu. Sinon, je vous parle de Stereo Plus et Audio Light qui ont un nouveau local maintenant au Mégacentre Le Bourgneuf, qui ont fait un touchdown dans ton salon. Le gagnant, c'est Marc-Antoine Beaulieu, qui a du stock bien en masse pour 3 250 $ électronique. On tient donc à les remercier encore une fois d'avoir embarqué avec nous pour vivre la frénésie digne des plus grands stades. 3 250 $ d'électronique livré direct à Saint-Isidore-de-Beauce. Donc, Marc-Antoine, c'est un beauceron, un fier beauceron. Allez découvrir le nouveau Stereo Plus. Ils sont maintenant combinés à la maison Audio-like. Donc, encore plus de choix. On fait une courte pause. Après la pause, j'ai le plaisir de retrouver mon chum David Chabot.
Un show qui va droit au but.
I don't have a time limit.
Un show qui se perd pas.
Very good. I think he brings a lot.
Marceau le midi.
418-971-101, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, merci de nous en informer. D'ailleurs, dans le secteur de l'Ancienne Lorette, il y aurait un incendie?
Oui, depuis ce matin, en fait, mais là, c'est terminé quand même. De ce que j'ai, moi, là, c'était un véhicule en feu, acte criminel qui serait en cause, mais l'intervention serait terminée. C'était sur la rue du Buisson. Policiers, pompiers, tout le monde était là. Ça a été fait rapidement comme maîtrise. Il y a eu un peu de propagation au niveau du garage où la voiture était. Ça, c'était adjacent à la résidence, mais personne n'a été blessé. C'est l'information que j'ai à vous donner là-dedans.
Ah, notre chroniqueur David Chabot a le cœur qui saigne. Il a le cœur qui saigne. Hier, il s'est adressé sur les réseaux sociaux à Pat Mahomes.
Parce que c'est son grand chat.
Parce que son cœur saigne. Et,
c'est ça, le sport.
Il a crié fort et son appel a probablement été entendu. Mais, salut, David!
Je pense que Patrick m'a entendu.
T'as entendu.
Il dit avec sa voix de Kermit, « Je m'excuse, David!
» Mais tout était pourri hier du côté de Kansas City. La mi-temps était pourrie aussi. Là, soit dit en passant, tous les événements entourant le Super Bowl étaient très cool. À la Nouvelle-Orléans, sur Bourbon Street. Je ne sais pas si tu as vu Lady Gaga jouer du piano et chanter sa chanson.
Son grand chapeau.
C'était de toute beauté. Mais la mi-temps, là, moi, j'avais des jeunes là, chez nous. Il y en avait 400, ouais, il y en avait 5. Puis, ils avaient tous hâte de voir Kendrick Lamar. Moi, dans ma quarantaine, Kendrick Lamar, je le connais. Je connais 2-3 de ses chansons. Mm-hmm. Je me suis posé la question pourquoi lui était là. Mais j'espérais qu'il y ait des artistes invités qui me fassent triper. Puis, au départ, il était très intéressé par Kendrick Lamar. Puis, après la prestation de Kendrick Lamar, il s'est transformé en Kendrick Lamarde.
Ouais.
Parce que tout le monde avait détesté ça. Alors que c'était des jeunes qui étaient vendus au show.
Ouais, mais c'est-tu de sa faute à lui? C'est un rapper. C'est pas le gars qui fait lever les foules comme du pop ou du rock. Mm. Le visuel était magnifique, mais c'était juste pour moi pas un show de la mi-temps. Puis
j'aurais invité d'autres rappers.
Mais André qui a juste rendu des comptes.
Mais tu sais, il y a 2 ans, là, Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, c'était
malade.
C'était incroyable.
Parce qu'il était une gang, parce qu'on était nostalgique. Mais demande à du monde qui ne trippe pas sur le rap, ils n'ont pas capoté. Là.
Mais tu sais, c'est-tu ce que ça me fait dire les dernières années, c'est que c'est rendu nous autres le produit du Super Bowl. Quand on était jeunes, là, c'était des artistes qui s'adressaient à nos parents parce que c'est eux autres qui consommaient, qui dépassaient.
Ouais.
Là, c'est rendu nous autres. Là. Fait que là, c'est des shows qui s'adressent à nous. Là.
Fait qu'on a plus de goût, c'est ça que tu veux dire?
Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils veulent attirer notre génération pour écouter le Super Bowl, pour pas avoir des publicités après. Puis là, ben, tu sais.
Je sais que ça fait un peu dictateur, ce que je veux dire, là, mais on devrait cesser de leur donner des cartes blanches. Surtout quand c'est ce type d'artiste-là. Tu te dis, t'as peu, là, c'est beau Kendrick Lamar, là, mais qui tu vas inviter? Là, il a invité SZA, de ce qu'on comprend. Il a invité l'autre qui chantait pas, mais qui jouait du tennis, là, Serena Williams. Puis ce qu'on sait, c'est que c'était un règlement de compte qu'il avait mis en place pour le Super Bowl.
On a vu les deux femmes sur la toune qui dissent Drake.
C'était merveilleux.
Sur une toune, entre autres, où Kendrick Lamar dit que Drake, c'est un pédophile. Ouais. Il a changé les paroles de la chanson.
Et minor.
Ouais, exact. Fait que, tu sais, c'était assez particulier, mais, tu sais, surtout ce genre d'artiste-là, je disais, OK, oui, tu peux inviter SZA, tu peux inviter l'autre là, qui joue du tennis.
C'était tellement mon oncle, mais tu me reconnais hier, j'étais genre, c'est qui ça?
Ce serait le fun qu'il y ait un medley avec d'autres rappers ou d'autres artistes internationaux qui auraient peut-être ajouté un plus. Ouais. Les filles, hier, n'ont pas été bien servis par la mi-temps. Le show de la mi-temps.
Non, je comprends. Il y avait Mustard aussi, là, je connais pas ce gars.
Mustard?
Ouais. Le gars qui.
C'est justement pas bien. On est donc bien rendu vieux.
On est des bonhommes et des bonnes femmes. Là.
En partant un rappeur qui s'appelle Moutarde, on n'est pas trop sûr.
C'est sûr qu'il pourrait faire un album avec Relish.
Oui, mais 50 Cent, c'était pas mieux, là, 50 Cent.
Hey, t'aimes bien parler de politique, puis je veux aborder ce sujet-là avec toi, parce que hier après-midi, je regardais ce qui se passait sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur un de tes textes, un de tes trop longs textes.
Oui, ils sont très longs.
Oui, je me dis des fois, il écrit vraiment tout ça avec son cellulaire et ou ses chats GPT. Mais bref, tu parlais de Mark Carney, qui est pressenti pour être le prochain chef du Parti libéral du Canada. Actuellement, c'est le Parti libéral qui est au pouvoir au Canada. Et Justin s'en va. Lui va prendre place alors que Justin va partir, mais il va devenir premier ministre du Canada alors qu'il n'a jamais été élu par la population. Est-ce que c'est le premier, le deuxième ou le troisième?
Bien, beaucoup de mes longs posts partent du fait que moi, je me pose une question. Je me dis, si je trouve la réponse et ça m'intéresse, ça doit être parce que les autres aussi, ça va les intéresser. Bon. Fait que c'est pour ça que je fais des longs posts avec mes gros doigts de dû le soir avec le cellulaire sur ma bedaine.
C'est-tu sur ton cellulaire, de vrai?
La plupart du temps, oui.
OK.
Ouais. Fait que là, ben écoute, c'est ça. Mais bref, tout ça pour dire que pour revenir à Carney, on le sait, ancien gouverneur de la Banque du Canada, etc., il a fait plein d'affaires. Puis là, c'est quasiment un couronnement à son histoire parce que là, il y a.
Chrystia Freeland.
Ouais, c'est ça, qui dit un peu n'importe quoi pour se contredire elle-même. Là. Fait que c'est comme moins crédible. Carney n'est pas élu, bien évidemment. Donc là, quand il va devenir chef du Parti libéral, là, je parle déjà au futur parce que je suis pas mal sûr que ça va arriver comme ça, bien, il va devenir automatiquement premier ministre du Canada. Parce que par convention, le chef du parti au pouvoir devient le premier ministre. Donc là, une fois qu'il devient premier ministre, bien là, il va falloir qu'il se fasse élire à un moment donné parce que tu peux pas être premier ministre en dehors du Parlement. Ben, en fait, tu peux l'être, mais tu sais, ça se tient pas pendant longtemps, tu comprends? Fait que c'est légal, c'est juste que c'est un peu bizarre. Sauf que là, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il va se faire élire, puis... en termes de député, mais comme chef du Parti libéral, puis après ça, il va chercher un siège pour rentrer au Parlement, puis là, ben, peut-être que les élections vont se déclencher avant, fait que ça se peut que ce soit un premier ministre, puis ça serait le premier de l'histoire comme ça qui arrive, en fait, le deuxième, excuse-moi, je devrais dire, qui arrive, qui est élu chef du parti au pouvoir, qui devient premier ministre, mais qui n'est pas élu, puis qui perd ses élections.
Quand tu dis pas élu, c'est parce qu'il n'a pas eu assez de temps pour se faire connaître, exact. Pas assez de temps pour faire campagne, puis que les gens ont plus voté par défaut, en fait, pour le Parti libéral.
Ouais, ben, je l'ai mal expliqué, là, dans le sens que là, il va devenir chef du Parti libéral, mais après ça, il n'aura pas son siège au Parlement. Fait que normalement, ce que tu fais, c'est que tu déclenches automatiquement une partielle avec un des députés backbenchers du Parti libéral qu'on sac un peu, puis tu lui donnes un siège gratis. T'sais. Il y a une élection partielle un peu factice, puis là, ben, le nouveau chef, donc, dans ce cas-ci, Carney se fait élire puis devient premier ministre élu. C'est déjà arrivé dans le passé, puis les parallèles sont fabuleux parce que c'était le père de Justin Trudeau, c'est-à-dire Pierre Elliott, qui a démissionné en 84 parce que c'est à peu près la même situation. Très contesté à l'interne dans son parti, très contesté à l'externe pour son mauvais contrôle de l'inflation dans les années 80 avec la crise du pétrole, puis la mauvaise gestion économique. Donc, il était très critiqué, il démissionne. Puis là, ben, le Parti libéral est allé chercher John Turner, qui avait déjà été député de haut profil quand même là, pour le Parti libéral. Il avait démissionné en 76, puis ils vont le rechercher en 84, puis ils disent « Hey, buddy, c'est toi notre chef. » Fait que là, il devient premier ministre automatiquement. Mais lui, il dit « Moi, là, je vais make liberal great again. » Fait qu'on va partir tout de suite en élection nationale. Donc là, même si moi, j'ai pas un siège au Parlement, je m'en fous. On dissout le Parlement, puis on part en élection nationale. C'est ce qu'il a fait, puis il s'est fait sacrer une volée assez légendaire par Mulroney, puis il a jamais été élu.
Turner a été premier ministre du Canada du 30 juin au 16 septembre 1984.
Donc, la durée de la campagne.
Ouais.
Fait que je te dirais qu'il n'a pas eu le temps de décider grand-chose, mais écoute, il peut mettre ça sur son CV pareil. J'ai été premier ministre. Tu sais. Puis, il y a deux autres personnes qui ont eu un peu une situation similaire. Là, je te ramène dans les années 1800. 1884-96, Mackenzie Bowell était premier ministre du Canada sans être un député dans la Chambre des communes, mais c'était un sénateur, parce que là, on sait qu'il y a deux chambres qui se séparent. Là.
Ouais.
Donc, il était sénateur, mais pas député. Il a été premier ministre. Il a fait ça pendant deux ans cette année. Puis tout de suite après, Charles Tupper, là, je peux pas le dire, je le connais personnellement, là, a fait la même chose, sénateur élu premier ministre. Puis après ça, ben, il est allé en élection, puis lui aussi s'est fait sortir. Fait que finalement, la morale de cette histoire, c'est que si t'es premier ministre non élu, ça se peut, ça vire mal pour toi.
Oui, mais est-ce que lui va s'arranger, parce que Justin Trudeau s'est arrangé pour rester en place pendant plusieurs mois, là, alors qu'il c'est carrément illégitime. Là. Lui, va-tu s'arranger pour faire ça aussi? Peux-tu le faire? Y a-t-il une stratégie qu'il pourrait mettre en place qui ferait en sorte qu'il resterait plus longtemps?
Bien, tout dépend du NPD.
Mettons une association avec le Bloc québécois là, ou encore avec le NPD. Ouais.
Le Bloc, je serais surpris, hein, parce que là, tu sais, Carney, Banque du Canada...
Le gérant d'artiste nous en a fait des pas pires les dernières années. Là.
C'est sûr qu'il est capable. Mais c'est vraiment le NPD, la clé là-dedans.
Je vais juste vous dire qu'Éric Lapointe, c'est l'individu le plus intelligent que j'ai eu à gérer de ma carrière.
Le Québec, c'est nous. Un des meilleurs jingles à vie, là. Mais pas pour les bonnes raisons.
OK, François, là, c'est correct.
Merci, merci. Mais c'est ça. Fait que là, ça va être Jack Meade qui va décider tout ça. Parce que moi, sincèrement, là, low-key, là, je pense que ce qui va se passer, c'est que là, Carney va être élu là, par programmation au Parti libéral. Là, il va arriver, il va annoncer 2-3 patentes qui fait des changements. Puis là, Jack Meade va faire « Ouais, j'y crois à ton histoire. Moi, je pense qu'on s'en va dans une nouvelle direction au Canada puis je vais lui laisser sa chance. » Puis là, les élections vont être faites à l'automne et non pas au printemps. Fait qu'il va y avoir un 6 mois de Carney comme premier ministre, selon moi. Puis là, ben, à travers tout ça, ils vont faire une partielle un peu factice d'un député qui, finalement, il va focusser sur sa famille, là, du ouais. Parti libéral, dans un comté Châteaufort, puis il va se faire élire légitimement.
Mais techniquement, il peut pas être au salon à Ottawa, là. Il ne peut pas être à l'intérieur.
Non, mais ça va être un peu comme Éric Duhaime fait en ce moment.
Fait que ça va être le premier ministre du Canada, mais il ne pourra pas assister à ce qui se passe en chambre.
C'est fascinant. Et
il va l'écouter à la télé. Mais honnêtement, pas grand-chose parce que je pense que je t'avais déjà parlé
oui,
ici. Là.
Tu l'as fait souvent.
J'étais allé, ben, au Parlement, je suis allé quelques fois, mais là, le plus récent, c'était à l'automne, puis sérieusement, c'était gênant. Là. C'était le zoo total, il n'y a rien qui se passe là.
Ouais.
Fait que là, tu sais, les conservateurs vont sûrement faire de l'obstruction parlementaire, même si Carney devient premier ministre, puis que là, il est ex-parlementaire, tu sais, il n'est pas dans la chambre, là, mais ils vont sûrement faire du blocage pareil. Fait que ça va être le même zoo pendant 6 mois.
T'as jamais été politicien, mais est-ce que tu as aimé ton passage en politique avec les politiciens? Je t'ai vu la semaine passée, tu as réagi au retrait de Gilles Léolier. Ouais. Gilles Léolier qui a annoncé que c'était dans ses derniers mois à la mairie de Lévis. Mm-hmm. Je pense que tu étais touché parce que tu as travaillé avec lui.
Oui, oui. Pis...
Là, je t'ai connu. Moi.
Oui, on s'est connu là.
Mm-hmm.
OK.
Quand je couvrais municipal, là, entre autres sur le terrain, là, David il était tout un attaché de presse.
Tu ignorais Pascal?
Ben non.
Ben, t'étais directeur de cabinet aussi.
Oui, directeur de cabinet à Lévis, mais j'avais fait la campagne de Québec. C'est peut-être là qu'on s'est connu.
Puis tu ignorais Pascal?
Ben, c'est dur de l'ignorer.
T'es chanceux qu'elle te parle aujourd'hui.
Ben écoute. C'est pas rancunière. T'sais.
Mais Gilles Léolier, t'as travaillé avec lui?
Oui, oui, c'est ça. T'sais, j'étais son directeur de cabinet pendant 2 ans, puis attaché politique un genre de 9 mois avant ça. Puis sérieusement, j'ai méga appris de cet homme-là. Là.
Ouais.
Sur quoi? Qu'est-ce qu'il t'a appris? Parce que Gilles Léolier est vu comme une main de fer dans un gant de velours ish, parce que le gant de velours peut être troué. Ça a été difficile avec le maire Labombe. Il a tenu quand même tout son bout là, dans ce rififi-là.
Certains de ses employés aussi, caractériels, Gilles Léolier.
Oui, elle disait aussi, mais en même temps...
T'as-tu reçu des chaussures dans la tête? Ou...
Non,
il y a tout le côté où il a fait avancer énormément Lévis. Certains pourront rire du fait qu'André voulait faire un 10-30 de Lévis, mais ça reste qu'il a développé cette région-là comme pas un l'avait fait auparavant.
Là, on a des problèmes d'aqueduc puis de...
Oui, c'est ça, c'est allé trop
des
vite.
Eaux, là, ouais.
Mais comment est-ce que tu définis qu'il t'a appris quelque chose, toi?
Bien, deux affaires, OK? Premièrement, c'est un super pro des relations publiques puis des communications. Puis on a fait des communiqués de presse ensemble, on a fait des annonces, décidé ça, puis... T'sais, dans le processus, j'ai compris comment il réfléchissait, puis c'est garde le message simple le plus possible. Donc, essaye pas de faire des longues phrases alambiquées avec 28 virgules. Là. Une phrase, une idée, un point. Ça a l'air basique ce que je vous dis là, mais en politique, souvent, c'est les grandes envolées, là, t'sais, des bas de côté, que là, il va te faire des phrases que tu arrives à la fin, puis tu te dis de quoi tu me parlais déjà?
Ouais.
C'est pas ça, Gilles Léolier, pantoute. C'est des messages clairs qui frappent, puis qui sont concises.
Là, tu viens de parler de l'idole de Pascal Cévé.
Oui, j'espère que je t'ai pas froissé.
Quelqu'un qui. Une phrase, ça dure 3 minutes.
Ouais, j'écoute encore!
T'es essoufflé à la fin. Là. Ouais.
Mais je trouve pas que je suis si essoufflé que ça quand je le fais, vraiment. Ah. Là.
Mais tu l'aimes-tu pour vrai ou pas? Là?
C'est parce que je fais des longues phrases.
Oui.
Ouais?
Okay.
Bon,
ben, j'aime ça mettre en contexte.
La semaine passée, par 2 fois, il y a des invités qui ont dit « Yannick, t'as-tu compris? »
Non, le même. Puis pour vrai, j'ai perdu une personne que je perds pas. Fait que vraiment, ça devait être épouvantable.
Ah, oui. Ah,
ouais. Mais tu sais, des points virgules dans une phrase à la radio, c'est rough. Là, dans un texte, ça peut aller.
Ouais.
Fait qu'il y avait ça, puis l'autre affaire, c'est que c'est vrai, okay? Ce que je vous dis là, c'est pas une image inventée pour le faire bien paraître. Avec Gilles, quand on était dans des rencontres avec l'administration, c'était toujours « OK, mais c'est quoi le bénéfice pour le citoyen? » Il était tellement, tellement orienté citoyen là, que des fois, ça en était genre des conflits avec l'admin, dans le sens qu'il
Mais il a été réélu sûrement là-dessus aussi. Là.
Oui, mais je pense que c'est ça la grande différence entre Gilles Léolier et le maire actuel de la Ville de Québec, Bruno Marchand, c'est j'ai l'impression que l'autre bord, il était axé sur son citoyen, puis ici, il est plus axé sur ses propres idées à lui.
Ouais.
Ouais. Si je considère que c'est un salut hitlérien, je n'ai pas à m'excuser, mais je m'excuse de l'impact quand elle dit que c'était pas un salut hitlérien, puis elle a l'air d'avoir fait un salut hitlérien.
Je m'en excuse quand on en parle abondamment dans les médias, puis qu'on trouve que c'est épouvantable
exact.
Aussi.
Ouais. Mais c'est ça. Je pense que c'est la grande différence, puis ça, je vais garder cette opinion-là pour moi, là. Ça n'engage que moi. Gilles Léolier était très axé sur ses citoyens. Le maire de Québec a oublié ses citoyens. Hey, je veux te parler d'autres choses.
Juste une dernière anecdote, oui, de Gilles avant de passer sur autre chose.
C'est-tu drôle, ben?
Non, ben non, mais c'est pour te démontrer comment il était comme
tu
personne.
Tu peux écouter quand même.
OK, mais je vais te faire ça rapido. Ben
vous autres.
C'est toi qui payes le show, hein. Fait que là, je suis pas en train de contrôler ta game, là, mais écoute, je vais faire comme les Eagles hier, là. Je vais rattraper un fumble. Non, mais... Gilles voulait pas dépenser d'argent pour rien. Okay? Il était très, très... Au point que même au cabinet, on avait des petits snacks puis des petits lunchs puis tout. Là, puis à un moment donné, il a dit, garde, on coupe les cachous, ben ça coûte trop cher. Okay? Je vous jure, c'est vrai. Puis à un moment donné, l'administration nous dit, hey, la ville jumelle, là, c'est Caen en France. Là, c'est A-E-N, que je sais jamais comment le dire. Là, puis il y a Grand Quevilly aussi. Quevilly, qui est deux villes en France qu'on était jumelées avec eux autres, qu'on savait même pas parce que ça s'est fait des années 80 dans le temps. Bon. Fait que là, l'admin dit, hey, là, c'est leur, quel anniversaire du débarquement de Normandie, 75e, quelque chose comme ça. Puis ils disent, hey, buddy, le maire, monsieur le maire, je devrais dire, il nous invite pour aller fêter ça. Puis là, c'était comme, hey, on va-tu faire un voyage en France aux frais des citoyens?
À Grand Quevilly?
Ouais, Grand Quevilly. C'est une très, très belle ville, apparemment. Mm-hmm. Puis ça a été tout un enjeu de décider d'y aller. Finalement, il est allé pour plein de raisons, notamment parce que le régiment de la Chaudière qui est à Lévis a participé au débarquement puis a libéré Carpiquet puis tout ça. Donc là, finalement, il est allé.
Il avait l'impression que peu importe ce qu'il faisait, il allait être probablement négatif dans la presse.
Mais c'était même pas une question de presse, c'était une question de est-ce que le dollar du citoyen qui travaille fort pour me payer, là, est-ce que ça vaut à peine d'y aller? Là, finalement, il l'a fait parce que bon, il y avait plein d'autres considérations diplomatiques et tout ça, mais ça a été une grosse question. Fait que c'est des réflexions comme ça qu'on avait à tous les jours, puis il dépensait pas pour le fun.
Oui. Puis je pense que tous les politiciens devraient avoir cette attitude-là, c'est-à-dire penser aux citoyens d'abord plutôt que de faire passer ses propres idées à lui.
Ben, faut voir ça comme une business publique, hein? Dans le sens que l'argent que je dépense, est-tu bien investi pour générer du rendement? Là, ben, le rendement peut se définir différemment en politique, là, mais des fois, on oublie ça.
Tu es rendu dans un autre monde malgré le fait que tu dois faire de la politique un peu au travers de ton autre travail. Mais est-ce que, tu sais, moi, un film que j'ai adoré, une série, en fait, que j'ai adoré, c'est House of Cards. Mm-hmm. Je comprends qu'à un moment donné, là, c'est pas le président qui va aller pousser quelqu'un dans une bouche de métro, là, pour la faire disparaître. Là. Mais j'ai aimé ça, les jeux politiques. Ça ressemble beaucoup à un jeu d'échecs. Tu sais, quand tu regardes là, l'attitude de Donald Trump actuellement aux États-Unis, ça te fait-tu penser un peu à un jeu d'échecs, c'est-à-dire comme y aller exagérément pour commencer à négocier, déstabiliser constamment les autres pour être sûr et certain d'arriver à ses propres fins. Tu t'ennuies-tu de ce monde-là d'échecs constamment?
Ben, tu sais, franchement, au municipal, c'était pas une grosse game comme ça, là, notamment qu'on avait 100% des élus qui étaient de notre bord. Fait que ça faisait pas des grosses tractations en arrière des rideaux. C'est sûr que j'aime beaucoup approcher la vie de façon stratégique maintenant parce que, tu sais, tout est une question de comment j'atteins mes objectifs. Puis là, c'est pas d'être un crasseur pour d'essayer de manipuler le monde.
Machiavel.
Ouais, c'est ça. T'sais.
Mais ça dépend. Tu l'utilises à bon escient ou à mauvais escient?
Ben, c'est ça. Là, j'essaie d'être une bonne personne, mais si on revient à House of Cards, il y a des affaires. Non, mais je travaille fort à tous les jours. Là, écoute, j'aimerais ça méditer, peut-être, mais je le fais pas.
Entre toi et Yannick, si vous êtes les deux passionnés par House of Cards, il y en a un qui m'inquiète plus que l'autre.
Ouais.
Mais je dis pas c'est qui.
Tu veux pas nommer de nom?
Non.
OK. Mais oui, tu sais, évidemment, c'est comme des séries de police, puis tout, ils vont tout le temps à l'extrême puis aller chercher les pires affaires, mais c'est vrai que dans un monde comme ça, où c'est le showbiz du monde lettre, là, on le sait, là, fait que là, tout le monde essaie d'être sur le Kodak puis essaie d'aller chercher le poste, puis c'est tough de pas être de même.
Ouais. Le gros moustachu disait ça.
Mais c'est pour ça que
c'est ça. La politique, c'est le showbiz pour les gens laids.
Mais c'est pas faux, pour vrai. Parce que
ça change, là. Ça change. De plus en plus, on a de la pancarte, là.
Ouais, ben oui, il y a ça.
Il y a de la pancarte intelligente, mais il y a de la pancarte.
Moi, je regarde les porte-paroles de Donald Trump là, quand il s'adresse aux journalistes. Là, puis non, je trouve pas que la politique, c'est pour les gens laids.
Non, c'est ça. Eux autres, ils ont comme pigé dans l'autre bac. Hein.
Ouais.
Mais tu sais, ça reste pareil que tu veux avoir de l'influence sur la société, puis c'est une voie rapide pour aller là.
Ouais.
Quand tu es élu, là, parce que tu commences simple député, puis là, tu développes tes tractations étendues dans le parti, puis là, tu peux te rendre jusqu'en haut. Là. François Legault, c'est ça. Ben, en fait, Il a été dans Transat. Fait que c'est pas vrai qu'il part de zéro.
Il a commencé par trahir les hommes d'affaires avec qui il travaillait pendant la nuit.
Ouais,
il a vendu son arme. Il est devenu multimillionnaire. Parti chez ses parents à 37 ans. Et
Prenne chez sa sœur. Voyons, Yannick.
Il est embarqué en politique. Il a réussi à devenir premier ministre du Québec. Je ne sais pas s'il avait réussi à le faire sans Charles
Sirois.
Ouais. Mais ça, c'est une autre histoire.
Je comprends que le soir, mettons, Pascal lit Rue du Duplessis, puis toi, tu lis genre François Legault.
Québec Hebdo.
Ouais, il y a ça.
Sport, le
mais,
Sport.
Mais tu sais, quand je parle de House of Cards, là, Donald Trump avec les minéraux, ouais. Je veux dire, tu sais, il dit « Oh, j'ai pas besoin du Canada, les États-Unis sont autonomes et tout ça. » On parlait avec un expert tantôt, ouais. Yvan Clich, qui est un ex-délégué commercial à Hydro-Québec international, puis c'est un ex-fonctionnaire international aussi. Il disait « Non, non, ça, c'est de la grosse bullshit. » Mm-hmm. Mais si lui le sait, j'imagine que les politiciens doivent le savoir aussi que c'est de la grosse bullshit. Puis en même temps, c'est un signal fort qu'on nous envoie, c'est-à-dire on doit être autonome. Là.
Oui, c'est ça. Ben, maître chez nous, là, c'est tout le temps ça. Mais les minéraux, tu sais, ça a la caractéristique de ne pas bouger. Hein. Fait que là, je viens de vous dire de quoi qui est vraiment spectaculaire. Là. Personne ne savait ça, mais ça ne bouge pas. Fait que là, quand tu vas les chercher, bien évidemment, tu as l'avantage de la géographie. T'sais, c'est chez vous, c'est pas chez les autres. Après ça, c'est ce que tu fais avec qui est important selon moi. Puis là, ben, nous autres, on a tendance à extraire puis envoyer ça notamment en Chine pour, par exemple, le lithium. La transformation du lithium est beaucoup, beaucoup basée en Chine parce qu'on met ça sur un bateau puis on vend ça à je sais pas combien de la tonne puis on fait pas grand argent avec ça. Le gouvernement du Québec fait environ 550 millions de redevances minières par année. C'est pas là que tu as le gros de l'argent. T'sais. C'est quand tu transformes que là, ça devient payant.
Mais ça semble, les redevances semblent aussi ridicules que les redevances qu'on peut avoir sur l'eau.
Oui, oui, parce que là, tu sais, on le sait avec
pas,
Olivier Primeau et tout ça. Ben, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus?
Non, j'aime tellement ça d'en parler, ça n'a pas de bon sens. Je comprends pas qu'on commence à se réveiller. On dit depuis des années, des décennies, depuis que la mer est monde, dit c'est notre ressource principale. Puis on n'a rien développé autour.
Fait que c'est pour ça qu'elle boit juste du vin. Elle veut préserver l'eau.
Exact.
Non, mais je trouve que c'est une posture qui se défend. Mais tout ça pour dire que, tu sais, par exemple, là, les alumineries, là, on extrait de l'aluminium du sol, ou je sais pas c'est quoi le minéraux qui permet de faire de l'aluminium, sauf que après ça, on le transforme au Québec. Puis c'est 12 milliards de PIB.
C'est parce qu'on veut pas se faire dire, mettons, par rapport aux normes environnementales qu'on ne les respecte pas. C'est parce que construire cette industrie-là va demander et de générer beaucoup, beaucoup, beaucoup de mesures financières qu'on n'a pas. C'est parce que en l'envoyant ailleurs, on s'enlève une possibilité de pas avoir assez de main-d'œuvre pour le faire. C'est quoi la raison principale, selon ce que tu vois, toi, du pourquoi on l'a pas exploité?
Il y a deux choses. Là. C'est une industrie qui est très, très, très subventionnée à travers la planète. Là. En France, là, je pense que c'est 57 milliards que je disais de subventions qui ont été versées pour stimuler l'industrie de la transformation de minéraux. Puis nous autres, on a la filière batterie, là, Bécancour, puis tout ça. Puis Nordvolt nous a fait vraiment mal dans ce dossier-là parce qu'on a vraiment eu l'air d'une bande de pingouins qui s'est fait avoir par un beau promoteur.
Ouais. Tu sais, les politiciens nous ont fait mal. Là. Nordvolt a juste joué sa business.
Oui, ben, c'est ça. Mais peu importe qui est le coupable de tout ça, on a essayé quelque chose, puis ça a floppé. Puis là, ça fait que l'industrie de la batterie puis de la transformation du lithium est maintenant teintée au Québec. Mais il y a beaucoup d'argent là-dedans parce que le lithium, il y en a beaucoup au Québec. On l'extrait, mais après ça, si tu le transformes pas, tu l'envoies ailleurs. Puis tu sais, je parlais de l'aluminium, dans le fond, c'est que c'est 12 milliards le chiffre d'affaires des alumineries au Québec. C'est 12 milliards l'argent qui est généré par l'extraction minière au Québec. Fait que c'est la même
c'est
affaire.
C'est un non-sens.
Puis là, tu as un minéraux, l'aluminium, puis là, tu as tous les minéraux. Là, l'or, le diamant, le bauxite, le cobalt, name it, là. Fait que,
ces entreprises-là sont subventionnées pour la plupart. Là.
Oui, oui. Puis ça, le modèle d'exploration
minière. Ça nous rapporte moins que ça nous coûte, puis en plus, on les subventionne.
Ah, c'est compliqué pour eux, parce que, tu sais, ils font toutes des coquilles pour faire de l'exploration.
Ouais.
Puis là, une fois qu'ils ont trouvé quelque chose, cette coquille-là est toujours déficitaire, dans le fond. Fait qu'au pire, elle fait faillite, mais jamais qu'elle va payer d'impôts. Puis là, l'autre coquille qui fait de l'exploitation, excuse-moi, qui le sort du sol, elle, ben là, écoute, on va se négocier des redevances d'exploitation, puis là, ça fait 500 millions pour quelque chose que, crime, il y a beaucoup de valeur qui sort du sol, là, tu sais. Donc, ça, c'est toute une industrie. Il y a des actions accréditives là-dedans, c'est, en tout cas. Mais on est quand même un environnement fiscal intéressant pour l'exploitation minière, mais on ne l'est pas pour la transformation. Puis moi, je trouve que c'est là le gros problème, parce qu'on perd tellement de valeur avec ça. Puis là, tu poses la question à savoir la main-d'œuvre, puis tout ça, ça a déjà été un problème, tu sais. Moi, je suis sorti de la restauration parce que j'étais écœuré de la pénurie de main-d'œuvre.
Fait t'avais ton restaurant.
C'est ça.
Un stress supplémentaire.
Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, la vraie raison, c'est pas parce que j'aimais plus ça, c'est parce que j'étais tanné de chercher du monde puis qu'il y en aille pas. Mais c'est
toi, vrai, tu faisais des déjeuners. Fait que quand ton gars était malade, il t'appelait à 3h du matin.
Et puis pas de joke, là, il y a deux sonneries dans l'iPhone. Là, ouais. Une que c'est une affaire de OVNI, là, puis un autre. Ouais. Qui me donne du PTSD, là, parce que quand ça sonne, c'est genre, il est 4h du matin, ça sonne, puis quelqu'un rentre pas. Là,
faut okay? que ça.
Fait que, mettons, je suis dans un centre d'achat, là, puis là, tu sais, je viens mal, genre. Mais je veux dire, j'ai plus d'emploi.
T'en reste encore du trauma de ça, c'est fascinant. Là.
Mais ces industries-là de transformation, pour revenir à ça, ben, c'est vrai que longtemps, ça a été un problème, sauf que là, il y a eu beaucoup d'immigration, puis le taux de chômage a augmenté un petit peu. Je te dis pas que là, on nage dans la main-d'œuvre, mais quand même. Fait que là, il y a peut-être une fenêtre d'opportunité, mais pour stimuler ça, ça prend de l'argent public. Mm-hmm. Puis là, l'argent public, ben, qu'est-ce qu'on dit là-dedans? C'est qu'on ne veut pas subventionner parce que là, c'est le BS corporatif, etc., etc. Sans avoir une stratégie nationale cohérente, c'est difficile de défendre cet investissement-là. Mais il y a quelque chose là-dedans, là, parce qu'à un moment donné, on va être condamné à mettre ça dans des bateaux puis flipper ça ailleurs, puis racheter après ce qui est transformé.
Ouais. Mais on va-tu comprendre quelque chose de positif du gros orange? C'est-à-dire l'autonomie en premier. Mmh. On doit être autonome puis diversifier aussi les exportations. Mmh. Tu sais, à travers le monde, que ce soit pour le pétrole, que ce soit pour le gaz, essayer de se diversifier le plus possible, ce qui fait en sorte que le prochain qui va rentrer, c'est J.D. Vance, soit-il en passant.
La semaine passée, on avait un invité, c'était super intéressant, qui nous disait oui, mais en même temps, on a manqué le train aussi parce qu'ils se sont fait leurs propres exploitations du côté de l'Europe. Si, mettons, nous, on souhaite exporter, il y a quand même des business dans lesquels il va falloir les gratter fort si on veut être maintenant le fournisseur.
Ouais.
On a manqué le train à certains, dans beaucoup de domaines. Puis, quand tu dis « Trump, il va-tu nous avoir appris telle affaire? » Moi, je me demande si demain, il arrête l'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête par rapport aux 25% de douane, là, de frais de douane, là. Je me demande à quel point on va avoir encore le feu aux fesses pour continuer de se développer en tant que pays.
Mettons, Donald, il disparaît demain matin. Là.
Ouais.
Je pense pas qu'on a appris cette leçon-là.
Ben, c'est ce que je me dis, moi aussi, puis c'est bien triste. Là.
Mais tu sais, je pense que le mot-clé là-dedans, là, c'est, ben, les mots-clés, c'est valeur ajoutée. T'sais. Est-ce que l'industrie que tu fais de la valeur ajoutée chez vous localement? Est-ce que tu crées des emplois payants, là, pour prendre le slogan à Legault? Ou c'est vraiment juste de la main-d'œuvre un peu cheap pour générer de l'activité économique? Là, ben, des fois, tu vas acheter à moins cher ailleurs parce que de toute façon, tu t'en fous, c'est de la valeur ajoutée qui n'est pas créée. Tu sais, des cossins en Chine, puis tout, garde. Fais-en rentrer, c'est pas cher. Mais de la transformation minière ou d'autres activités liées à l'énergie en Alberta, les oléoducs, tout ça. Là, par exemple, tu crées vraiment de la valeur. Puis là, ça vaut la peine d'être en autarcie puis protectionniste. Puis ça, ben, c'est la nuance que Trump fait pas parce que là, lui dit 25% pour tout le monde qui rentre de l'acier puis de l'aluminium maintenant. Il n'y a pas d'industrie de l'aluminium aux États-Unis. Fait que forcément, il paye plus cher. Ça, c'est ça la constante.
En fait, c'est les consommateurs aux États-Unis qui vont payer plus cher.
Oui, parce que là, ça va trickle down. Là, pour, les chars vont coûter plus cher, les canettes de Pepsi vont coûter plus cher. Des affaires aussi banales que ça dans notre quotidien. Parce que forcément, il importe de l'aluminium beaucoup plus qu'ils en produisent localement. Fait que là-dessus, je trouve que c'est mal choisi. Je sais pourquoi il fait ça. C'est parce que là, c'est MAGA, puis là, Golden Age. Puis là, dans le temps, on faisait des chars à Détroit, puis tout le monde était riche. Fait qu'on va faire la même affaire, mais on n'est plus dans ce contexte-là. Faut qu'ils réfléchissent un peu plus loin.
David Chabot, j'ai un message tantôt d'un certain Patrick. Il fait dire qu'il s'excuse pour hier, pour sa game.
Okay, il était bien, il était mieux.
Il va se reprendre la saison prochaine.
Hey, ça va être
dit
long.
Que,
hein?
Ça va me prendre une couple de semaines là, de me remettre, mais je vais y parler.
Est-ce que c'était ton club qui... Moi, c'était le mien parce que je veux dire, j'ai regardé tout au long de l'année, puis c'était un bon club, puis il trouvait tout le temps des façons de gagner. J'aurais aimé que les Commanders se rendent peut-être un peu plus loin. Là. Malheureusement, ils ont été jusqu'où ils pouvaient aller. Puis après ça, j'ai transféré mon amour sur Casey, mais hier, j'ai été déçu, mais ceux qui prennent pour Casey... Les autres sont gênés.
Ouais, moi, je suis dans le bandwagon depuis qu'il est arrivé. Je pense en 2015-2016.
Ouais.
Première fois que je l'ai vu jouer.
C'est sa coupe de cheveux, quoi?
Ouais, ben moi, c'est sa voix. Ah, Kermit, j'aime ça. Mais sans faire, tu parles des Commanders. Je trouve que les Commanders, cette année, c'était Casey quand Mahomes est arrivé. Ça a changé un peu la game. C'était dynamique. Tu savais jamais ce qui allait arriver. Puis là, j'ai embarqué dans le wagon à ce moment-là. Maintenant, ben là, t'es rendu avec un vieux club de bonhomme comme avec Kelsey.
C'est que ça s'explique même pas tant que ça. Moi, c'est ça que je trouve ça triste, en fait, pour les fans de Casey. C'est qu'hier, ça ne s'explique pas vraiment ce qui s'est passé.
Ils ont juste été poche.
Juste poche. Merci, David.
Merci.
418-971-101. Si vous voyez quoi que ce soit sur la route, les amis, merci de nous en informer. Vous êtes nos yeux, nos oreilles. Nous autres, on s'en va en musique. Muse Madness au boulevard.
Marceau le midi.
On aime ce que vous faites.
All right.
Ça fait du bien.
Ce show-là était juste écœurant à Québec. Il y avait la première partie, c'était Evanescence.
Moi, mon genre.
J'avais regardé ça avec Pinchot et des auditeurs. Je m'en souvenais toute ma vie, hein, parce que Evanescence, moi, ça n'a jamais été ma chanteuse favorite. Mais performance vocale, incroyable. C'est sûr qu'on l'avait
t'avais
pas
aimé
à,
ça?
À son prime, là. Mais moi, je veux dire, j'avais aimé la première partie. J'avais adoré Muse, là. Tout ce qui venait avec, là, pour ce qui est du visuel, puis des tunes qui nous jouaient. Mais ça a été une super de belle soirée avec les auditeurs.
Ça, c'est sûr. En plus, vous étiez dans la loge.
Oui.
Hein? Pas rien. Rien de trop beau pour la classe ouvrière.
La bière était servie. Gratis.
Y avait-tu le rack à dessert comme il y a au Centre Bell à Montréal?
C'est une bonne question. Y avait-tu quelque chose à manger? Je m'en rappelle pas. C'est les auditeurs qui étaient avec nous ce soir-là, 418-971.
Toi, tant que t'as de la bière.
Ouais, c'est ça. Tant qu'il y a de la Coors Light. Toi qui en avais pas ce soir-là. C'est la vie, c'est la vie. 13h36, ouais. Regardons ce qui se passe dans l'actualité, cher ami.
Oui, beaucoup de choses. Entre autres, il y a des gens qui nous réécrivent. Hey, qu'est-ce qui se passe du côté de l'ancienne Lorette? Ben, il y a eu des interventions incendies aujourd'hui. Il y en a eu une autre à 12h30. C'est un camion de vidange complètement en feu. En fait, c'est ça que vous avez vu aux abords du boulevard Hamel, là, à l'intersection de la rue Notre-Dame, à l'ancienne Lorette. On avait fermé le boulevard Hamel dans les deux directions. Vu l'intervention des pompiers, il y a eu des déploiements de boyaux d'incendie sur la chaussée. Immense colonne de fumée qui était visible au loin. Vraiment une forte odeur de plastique aussi qui était perceptible parce que ben, le camion de vidange a brûlé, les vidanges qui étaient à l'intérieur aussi. Le feu a pris naissance dans la partie de la cabine du camion selon l'hypothèse des pompiers, mais on n'a pas plus d'informations pour l'instant. Ça devrait sortir en courant de journée. Mais sachez que tout est maîtrisé, c'est beau, pas besoin d'appeler les services d'urgence, on est là sur place. Menace tarifaire, eh bien François Legault va effectuer une première visite à Washington. Ça, c'est sorti dans les dernières heures comme quoi il va s'envoler pour aller participer cette semaine à une mission spéciale du Conseil de la Fédération. C'est les 13 premiers ministres provinciaux et territoriaux qui vont faire une série de rencontres. On veut plaider en faveur du maintien de solides relations entre le Canada et les États-Unis. Ça va-t-il avoir un impact? La question se pose, mais on veut aborder différents thèmes, comme l'économie, l'emploi, l'énergie, ouais, les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques, comme on a jasé avec nos invités aujourd'hui, la sécurité des frontières, bien sûr, et l'immigration. Puis c'est rare, ces missions-là, entre autres, que Legault y aille voir le président américain, Donald Trump, puis c'est sûr que l'épée d'Amoclès est encore au-dessus de notre tête là, pour ce qu'il y en est d'imposer des tarifs douaniers, 10 % entre autres sur le pétrole, puis 25 % sur tous les autres produits canadiens. Ça devrait là, quand même commencer à s'appliquer au courant du mois, mais Trump a décidé là, d'accorder un sursis de 30 jours. Il pourrait revenir sur son 30 jours. Il peut faire ce qu'il veut finalement. J'ai l'impression de vous parler de nouvelles, mais de n'avoir aucune certitude quand je vous en parle comparativement aux dernières années en politique dans bien des dossiers. Pierre Poilievre aussi fait jaser de lui parce qu'il veut sabrer l'aide étrangère pour aller financer la défense de l'Arctique. Ça, c'est souvent des choses qui tombent entre deux chaises.
Ouais.
Mais parlons-en parce qu'on se propose pour assurer la défense de l'Arctique face aux visées expansionnistes de la Russie et de la Chine. On en parle parfois du Nord, puis on vous dit, entre autres, il faudrait faire en sorte qu'on le protège un peu mieux qu'avec un ranger assis sur une roche.
Ouais, c'est des membres des Premières Nations, donc ça peut être des Inuits ou autres, là, qui sont embauchés pour devenir les rangers du Canada. Et ces gens-là sont partout dans le Grand Nord, dans toutes les provinces, puis ils se promènent aux abords des cours d'eau du Grand Nord qui peuvent recevoir des sous-marins, exemple.
Mm-hmm.
Et là, s'il en voit un passer, bien là, il prend son CB. Puis il mentionne qu'il y a un sous-marin qui passe, puis il croit que c'est un sous-marin russe, ouais, ou un sous-marin chinois ou un sous-marin des États-Unis.
De conquête, là, parce que c'est pas lui qui va commencer à défendre. Là, on s'entend le territoire avec son fusil. Là.
C'est 12, là.
C'est vraiment une façon de dire on est sur le territoire. Parce que s'il n'était pas là, c'est comme s'il n'y avait personne. Quelqu'un pourrait arriver puis planter un drapeau. Là, en étant présent, il ne peut pas défendre le territoire, mais il peut imposer sa dite présence, donc la présence canadienne. Puis c'est un peu comme ça, à travers les dernières années, qu'on a réussi à garder notre territoire. Mais on s'entend, ça ne promet pas. Là. Ça ne promet pas dans un genre de visée internationale par rapport à ces territoires-là. Puis là, on dit que rapidement, là, Poilievre, lui, il financera des milliards de dollars à chaque année pour justement aller bénéficier au Nord de toutes ces améliorations-là pour une réduction importante de l'aide étrangère pour un peu protéger les dix territoires face aux terroristes, aux bureaucraties mondiales qui voudraient s'approvisionner ou encore juste tout simplement aller chercher en conquête le territoire. Les ventes de Tesla ont chuté partout à travers le monde. Elon Musk, c'est pas le favori de bien des gens. Puis ça s'est traduit au niveau économique parce que les actions de Tesla ont chuté d'environ 11 % la semaine dernière. Ça a été plombé par des rapports de ventes assez atroces dans le monde entier. Les gens font aller leur poche pour faire comprendre leur politique. C'est un peu comme ça qu'on peut le voir. Et ça chute partout là, à travers le monde. Vous le savez, le milliardaire Elon Musk qui est à la tête de Tesla, il est proche de Donald Trump. Il n'arrête pas de faire des manchettes, pas pour des choses positives.
Moi, je n'ai pas le droit de vous donner des conseils à la bourse, là, mais par contre, vous autres, vous pourriez m'en donner. 418-971-1021. J'ai 3 actions de Tesla.
Qu'est-ce qu'il fait avec ça?
Tu sais, moi, Elon Musk, il me laisse ni chaud ni froid. Là. Je trouve ça exceptionnel, ce qu'il a mis en place avec Starlink.
Mm-hmm.
Je trouve ça vraiment nice que les gens qui sont off the grid puissent bénéficier de ça. Je trouve ça incroyable, son partenariat avec la NASA où il peut envoyer des astronautes dans l'espace. Puis tout ce qu'il a mis en place, je trouve ça cool, mais moi, j'ai acheté des actions dans le but de pouvoir peut-être vivre de ça un jour. Et là, j'en ai trois. Je vends-tu, je vends pas?
Moi, je te dirais des garder.
418-971-101. Ouais.
Il va être là 4 ans, là, si on peut dire qu'il est là en termes de politique. Là.
Pour... Tu me dis ça à moi, il faut que je les garde.
C'est pas un conseil. Moi, je voudrais juste voir, il arriverait quoi.
Ben, c'est parce que, tu sais, avec tout ce qu'il a fait dans les derniers jours, là, l'action descend, puis oui. De plus en plus de gens qui disent ben, moi, je pensais m'acheter une Tesla, puis je dégage.
Oui, beaucoup.
Fait que
beaucoup.
Là, moi, je vais perdre des sous, là. Ouais, je vais perdre de l'argent.
Puis il veut les mettre plus cher en plus. Ça sera encore
peu importe ce que je pense d'Elon Musk, c'est lui qui va faire en sorte que l'action va descendre ou monter. Mm. Puis là, je pense qu'il est comme du mauvais côté de la force.
Ouais, mais pour combien de temps? Puis. Je sais pas, ça va. Hey, avec la ville électrique. Mais avant, là, c'est important de le dire, Steve Verrette, tu sais, c'est qui à ville?
Ben oui.
Ben là, le maire Marchand a annoncé qu'il perdait un vétéran de la scène municipale. Steve Verrette va pas se représenter aux élections de novembre. Ça vient de tomber dans les 10 dernières minutes.
On
donc,
l'a appris sur nos ondes ce matin, en exclusivité.
Ben là, ça commence à sortir des médias, ouais. Imagine, tu sais. Le conseiller municipal de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile a annoncé qu'il va quitter la politique à la fin de son mandat. C'en est un autre qui a décidé d'aller voir ailleurs s'il était. Puis là, je vous disais, ça vient de tomber dans les médias actuels. Mais on fait la mention effectivement que l'équipe du matin de Rage Against le matin, puis c'est écrit dans les articles, merci en passant, l'a annoncé un peu plus tôt.
T'as-tu vu Kanye West dans les dernières heures?
Encore?
En fin de semaine,
moi,
c'était
l'enfer. Moi, je donne trop d'attention, je fais juste voir...
Il était en crise psychotique, là, Kanye West, c'était clairement ça, puis il dormait pas, tu sais, pendant 48 heures, à toutes les 20, 30, 40 minutes, il envoyait des messages antisémites sur Twitter. Finalement, il s'est fait fermer son compte. Ouais. Ou il a fermé son compte, là, mais ça a plus de bon sens. Puis pendant le Super Bowl, il vendait un chandail avec des croix gammées. Ça va être quoi la suite, là? Je pense qu'on va le perdre.
Je sais même pas s'il est capable de comprendre l'impact de ce qu'il fait.
Et le gars est milliardaire.
Oui, mais je pense qu'il est aussi malheureusement abruti.
Oui.
Je pense qu'il ne comprend pas.
Ouais, avec l'antisémitisme dont il nous a fait preuve en fin de semaine, effectivement, c'est, d'après moi, c'est y a de moins en moins de gens qui devraient acheter son stock.
Il y en a qui savent ce qu'ils font, mais lui,
voilà. Il y a moins de monde qui devrait acheter son. Jérôme 50, Lidoub sur Boulevard.